Alors, donc j'ai proposé de partir de ce mot de sens et de nous demander peu ce que, bon, comme j'avais dit, ce que peut nous vouloir ce mot. Oui, non, mais c'est pas grave, ça me gêne pas, hein, j'ai des sourires, mais. Pourquoi est-ce que j'ai dit que nous veut ce mot? Bon, pour deux raisons. Pour une raison égoïste et pour une raison générale. La raison égoïste, c'est que ça fait un moment que je me suis mis à employer ce mot. J'ai même intitulé un livre Le sens du monde. Et l'emploi de ce mot par un philosophe contemporain a même, non, je ne sais pas pourquoi je dis maintenant, l'emploi de ce mot par un philosophe contemporain lui a valu, au dit philosophe contemporain, même quelques remarques critiques de ses contemporains philosophes. Par exemple, Jacques Derrida, qui était à la fois un grand ami et comment dire, un partenaire philosophique, quand j'avais annoncé ce titre, il m'avait dit, eh ben dis donc, qu'est-ce qui te prend, ou quelque chose comme ça. Ouais. Il me disait, c'est trop gros, qu'est-ce que c'est que ce concept de sens, puis le sens du monde. Bon. Bon, je reconnais ça. Et puis d'autres critiques, qui étaient d'ailleurs, disons, implicitement présentes dans la remarque de Derrida, s'adressaient au fait que parler de sens, c'est-à-dire se mettre d'emblée dans un espace de pensée dans lequel il s'agit ou il peut s'agir de sens, c'est déjà, comment dire, déférer à un registre de pensée dans lequel justement il y a du sens. Et par conséquent, ça va quelque part, ça aboutit quelque part. Voilà, disons les choses de la manière vraiment la plus plate. Hein, si j'intitule un livre Le sens du monde, je fais entendre que le monde a un sens. Donc, par exemple, pour détailler, l'histoire a un sens, l'existence du monde comme tel, dans sa totalité, a un sens, et donc l'existence des existants dans le monde a un sens, et donc mon existence, et ma vie a un sens, et voilà. Et qu'est-ce que c'est que donner un sens à sa vie, une vie qui a du sens, et bon, voilà. Alors vous comprenez bien qu'en effet, comment dire, ces implications qu'on entend tout de suite résonner derrière le mot de sens peuvent paraître, comment dire, au minimum de mauvais aloi dans un temps dans lequel s'il y a bien quelque chose qui semble effacé, disparu, évanoui, c'est justement le sens de l'histoire, le sens du monde, le sens, etc. Et ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait nouveau, hein, ça fait déjà un moment que ça a commencé, cette extinction, évanouissement, mise en suspens, mise en question du sens. Et d'autre part, ça paraît extrêmement suspect de manière alors plus philosophique, un peu plus technique, à un espace général de pensée dans lequel le sens comme rapport à ou production de une signification a été massivement mis en question ou mis en suspens. Et par exemple, justement, au tout premier chef, avec d'autres, par quelqu'un comme Derrida, qui en parlant de dissémination, voulait parler d'une dispersion du sens ou des semences de sens, ou du sens comme semence possible de signification. Mais Derrida, là-dedans, n'est pas du tout le seul, on peut dire même encore un peu en amont de lui. Ce qu'on a appelé le structuralisme, si on le regarde, on le met en perspective d'un peu loin, c'est qu'elle s'est... et si on laisse de côté toutes les questions techniques qui sont liées à ce qu'on appelle le structuralisme, c'était le mouvement de considération privilégiée d'un ensemble de procédures et de constructions des formes de la signification en général, mais analyse des procédures et des formes, mettant en suspens et laissant même de côté la question justement du sens. Je me rappelle un échange entre Lévi-Strauss et Ricoeur il y a beaucoup d'années, une bonne quarantaine d'années, où Ricoeur disait à Lévi-Strauss, pour finir, si je vous comprends bien, les gens n'ont rien à dire, n'ont plus rien à dire, mais ce qui vous intéresse, c'est la manière dont ils le disent. Je ne sais plus quelle était la réponse de Lévi-Strauss, d'ailleurs. Je me demande s'il n'a pas dit, ben oui, si vous voulez, grosso modo, on peut dire les choses comme ça. Et si vous pensez que, en effet, pour Lévi-Strauss, d'une certaine façon, je crois qu'on peut dire que la question du sens culmine pour lui, c'est-à-dire aussi se dissipe en quelque sorte, je ne sais pas quel mot employer, moi, c'est se résout. Se résout, voilà, c'est peut-être le bon mot, la question du sens se résout, mais pas du tout au sens de la solution d'un problème, elle se résout au sens musical, de la résolution dans la musique, justement. Je pense que Lévi-Strauss prenait la fin de l'homme nu sur la musique. Et bien que la musique est un lieu d'interrogation, de considération particulièrement intéressant pour la question du sens. Qu'en est-il du sens en musique ? Est-ce que ça veut dire que de parler de sens en musique, que de parler de... Si la musique raconte quelque chose, si la musique parle... Bon. Alors... Ça, c'était la raison égoïste. C'est-à-dire, c'est les attendus de la raison égoïste. Parce que si, pour ma part, j'ai voulu quand même employer le mot de sens, puis bon, je ne le fais pas tout le temps, c'est pas une manie ni une obsession, mais je persiste à... Pas comment dire, à ne pas pouvoir laisser quelque chose complètement tomber de ce côté-là, parce que je dirais ce mot me veut quelque chose. C'est-à-dire nous veut quelque chose. Je dis que c'est égoïste, mais enfin bon, j'espère qu'à travers moi, il ne s'agit pas que de mes petites affaires ou de mon petit rapport personnel au mot de la langue. Hein. Bon. Et puis alors. Donc, je vais essayer de vous dire ensuite très, très brièvement ce que j'ai l'impression que ce mot me veut ou nous veut. D'autre part, la raison générale, c'est que, en effet, j'ai pu constater dans ces dernières années que le mot de sens, comme le nom d'une demande, d'une attente ou d'un désir, circule comme ça dans le discours. Courant. Voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu même un peu banal de lire dans le journal dans un monde privé de sens. Enfin, le nôtre, dans un monde qui se demande. Bon. Alors évidemment, ça veut dire que ce mot nous veut quelque chose. Évidemment, il veut le plus souvent précisément ce que on a pu me reprocher de, ou ce à quoi on a pu me reprocher de céder, c'est-à-dire quand on dit ah, un monde privé de sens, hein, on voudrait justement du sens. On voudrait combler cette demande ou cette attente de sens. Dont peut-être la forme principale, la forme la plus visible, celle qui, je pense, retentit le plus facilement dans l'espace comme ça du discours commun, c'est la fin de ce qui était pensé comme un sens possible de l'histoire. Vous voyez bien, maintenant, il ne s'agit pas seulement du sens de l'histoire, disons, hegeliano-marxiste. Il s'agit de la pensée générale de l'histoire comme... sont même pas comme un processus, peu importe le terme, mais comme un mouvement pouvant mener quelque part. Donc l'idée d'une direction, du sens comme direction, se recouvrant ici, mais en portant aussi en elle l'idée de la signification, une direction allant vers une signification. Quelque chose qui avait quand même dominé la pensée occidentale depuis au moins Kant. Kant est quand même le premier qui philosophiquement élabore quelque chose, ce qu'il appelle lui-même l'idée d'une histoire, qu'il l'appelle universelle, c'est encore autre chose, mais... L'idée d'une histoire, c'est-à-dire justement l'idée d'un, oui, disons quand même d'un processus, une évolution, d'une progression vers quelque chose. Bref, peut-être justement le mot de progression m'y fait penser, peut-être qu'il n'y a rien de plus sensible pour saisir cette sorte de demande, j'allais dire latente, mais elle n'est pas latente, justement, elle est expresse, souvent un peu errante en direction du sens, que de considérer la liquidation de l'idée de progrès autour de nous. Une liquidation qui est, je ne parle pas de référence au début, elle est plutôt implicite. En fait, je pense qu'il n'y a personne ici qui va se lever et dire comment, mais enfin, mais le progrès, nous le voyons tous les jours. Vous voyez, personne n'ose. Et oui, ça vous fait même rire, mais c'est quand même se représenter que nous sortons quand même d'un monde dans lequel quelque chose du progrès fut-il. Fut-il accompagné de beaucoup de conditions, de précautions, de circonlocutions, quelque chose était toujours là, maintenant ça n'est vraiment plus là. Enfin, sauf à parler, bien entendu, du progrès, mais c'est plus dans le même sens, alors de la progression, de l'enchaînement rigoureux et indéfini des procédures techniques. Et du fait qu'elles engendrent à leur tour à la fois des nouveaux besoins et de nouvelles possibilités, etc., etc. Ça, c'est sûr que ça ne cesse pas de progresser, mais que justement, plus personne ne peut se permettre de dire que c'est tout simplement un progrès. Donc, voilà, de manière très générale, il y a une demande, nous formulons à nous-mêmes une demande qui se formule très souvent en termes de sens. Ça n'est peut-être pas juste, pas adéquat de la formuler dans ces termes, mais il faut aussi, faut au moins répondre à ça. Enfin, il faut savoir si le discours banal, quand il élève une demande de sens, ne fait que répéter la banalité idéologique, ou si, je dirais même, j'oserais même dire, parce qu'après on en discute, donc j'oserais même dire, même si, même là-dedans, même dans cette banalité idéologique, la demande qu'il y a, elle ne doit pas recevoir une réponse. Je ne dis pas une satisfaction. Oui, oui, on va vous donner du sens. Mais voilà. Est-ce qu'on peut entendre ce qui se demande là-dedans? Voilà un peu la question. Alors, cela dit, je mettrai maintenant seulement en place très rapidement quelques indications, et puis alors ensuite, on pourra essayer de se mettre à parler. Bon, sur le fond de ça, hein, que quelque chose du côté de ce mot de sens nous adresse, disons, au moins un appel, nous demande qu'on écoute de quoi il est question là-dedans. Alors, je voudrais dire que pour moi, le mot de sens, d'abord, je le reprends très simplement de quelque chose que Heidegger dit quelque part dans Être et Temps, et peu importe, là, je n'ai pas le texte, je ne vais pas vous... Il consiste simplement à dire que le sens, c'est un renvoi à. C'est un renvoi à autre chose. Vous savez que la question de Heidegger dans Être et Temps, c'est la question du sens de l'être. Je ne veux même pas commenter ça, hein, je n'ai même entré dans Heidegger là-dedans. Je veux dire, mais si vous voulez quand même, je pourrais dire que si on voulait donner de résumer, même pas un résumé, si on voulait contracter comme ça férocement le sens de l'entreprise de Heidegger, serait de dire que la question du sens de l'être mène à ceci, que c'est l'être qui est le sens de l'être. Et que l'être, par ailleurs, que l'être n'est pas. Tout ça, c'est des propositions heideggeriennes, si vous voulez. Dont je ne fais pas ici une référence comme ça, philosophique, obligée, au sens où ça serait, comment dire, proprement la pensée de Heidegger qui serait en jeu ici. Non, je crois que c'est une... Voilà, c'est simplement un point de départ qui, je crois, est moi certainement une fécondité. Le sens du sens, ça veut dire du renvoi à autre chose. Ça veut dire que l'histoire a un sens si elle renvoie à une fin de l'histoire. Ça veut dire que ma vie a un sens si elle renvoie à autre chose qu'à sa brève durée entre ma naissance et ma mort. Et que si une phrase a un sens, c'est que les signifiants qui la composent renvoient à un système de signifiés, et que ce système de signifiés, ben, lui-même, il est partagé par mes interlocuteurs, et que donc ça fait... Ça nous met ensemble dans le même renvoi à, voilà, à tout ce qui peut être indiqué. Donc, renvoi à. Et à partir de là, il me semble qu'on peut dire que ce qui nous met, semble nous mettre, en manque de sens, et donc en attente et en demande de sens. C'est qu'en effet, nous ne voyons plus à quoi ça renvoie. Tout ça. L'histoire, le monde. Et et que nous avons, ou que nous avons eu, que nous avons cru avoir l'habitude de pouvoir désigner ce à quoi ça renvoie. Donc comme une fin, un accomplissement, une complétude, une satisfaction. Finalement, toujours quelque chose qui vienne achever le processus du sens, et donc le processus du renvoi. Finalement, comme tout, encore une fois, le sens de l'histoire est l'exemple le plus privilégié. Quand on parlait de sens de l'histoire, on parlait d'une histoire qui aboutit quelque part où l'histoire est finie. C'est d'ailleurs comme ça que Kojève, qui a été, comme vous savez, le grand introducteur de Hegel en France, que Kojève se représentait, lui, Hegel, l'histoire hegelienne, comme ce qui, à un moment donné, aboutit à la fin de l'histoire. Kojève a pensé qu'on était entré dans la fin de l'histoire. Et cette affaire de la fin de l'histoire, ça a été repris, bon, d'une autre manière, mais enfin, qui n'est pas étrangère à Kojève, bien sûr, bon, vous savez, par Fukuyama. Bon. C'est-à-dire, à un moment donné, le processus est achevé, c'est-à-dire le processus, il a produit cela. D'accord. Et alors, à ce moment-là, le processus s'arrête. On y est. C'est comme si je dis aussi que le sens de ma vie, c'est... Deux choses, le sens de ma vie, ou bien c'est mes enfants, ou bien c'est, pour moi, c'est mes livres. Et pour chacun de nous, ça sera ce que j'ai fait, produit. Et là-dedans, dans mes enfants, ou dans mes livres, ou dans les deux ensemble, c'est fini. C'est-à-dire, ma vie est finie. Et son sens est là. Vous voyez, là, ça devient déjà un peu plus problématique. Enfin, je dis, le sens de ma vie est dans mes enfants, dans mes livres. Bien. Bien. Mais si ma vie comprend, comme c'est logique, c'est pas, si ma vie comprend ma mort, le sens de ma mort est dans mes enfants et dans mes livres. Oui, bien sûr, d'ailleurs Hegel le dit, la vie des enfants, c'est la mort des parents. Bien. Mais le sens de ma mort là-dedans, ah, c'est plus difficile. Vous voyez? C'est beaucoup plus difficile. À moins d'admettre que oui, ben oui, il faut bien que vous fassiez place à vos enfants. Oui. Et à mes livres, pourquoi? Je peux toujours en écrire d'autres, même si je ne peux pas fabriquer toujours d'autres enfants. Donc, je crois que assez vite, c'est juste ça que je veux suggérer, assez vite, l'idée de l'achèvement du renvoi à autre chose, à de l'autre en général, que cette idée du renvoi terminal, accompli, satisfaisant, hein, au sens propre, c'est-à-dire assez satisfait, assez, en faisant assez, la satisfaction, c'est complet, c'est fini, c'est satisfait. Bien insister sur ce mot de satisfaction, c'est pas parce que ça peut communiquer avec tout un régime qui est le régime du rapport du désir et du plaisir. Et de l'idée, par exemple, que le désir attend et demande une satisfaction, et que le plaisir serait une satisfaction du désir, qui est aussi un mode de représentation du sens. Non. Donc, voilà, je crois que que ce qui me sollicite là-dedans, c'est tout simplement ceci, que la vérité au sujet du sens n'est peut-être pas du tout dans la satisfaction de ce renvoi qu'il est, mais dans le renvoi ou dans l'envoi lui-même. C'est-à-dire dans quelque chose, dans un mouvement, dans un geste, dans ce qu'on peut désigner par un mot repris, encore une fois, au registre, disons, de l'histoire, de l'évolution, du procès, ou processus ou du progrès, tout à fait en annexe même du progrès ici, par le mot de devenir, en pensant à ce que Deleuze lui fait dire au mot de devenir. Parce que pour nous, devenir, jusqu'ici, jusqu'à plus en plein formé, encore une fois, dans le discours courant, devenir, c'est devenir quelque chose. Par exemple, c'est devenir grand, quand on est un enfant. C'est devenir savant. C'est devenir immortel. Qui sait, enfin, je parle pas seulement d'Alain Replier, je parle de notre désir à tous de devenir immortel. Alors que peut-être nous le sommes déjà. Là, j'en dis trop. Donc que nous sommes immortels. Ça, c'est une proposition de Badiou. Celle de Spinoza, c'est que nous sommes éternels. Mais devenir, Deleuze, qu'est-ce qu'il a fait dire au mot devenir? Eh bien, il lui fait dire, vous savez, une série d'attributs, de compléments, de devenir femme, devenir imperceptible, devenir animal. En fait, toute la série de ces termes, enfin, la petite série de ces termes, je crois, se rassemble très bien. Sous l'idée générale, qui est aussi d'ailleurs un motif deleuzien, de fuite. C'est-à-dire qu'il s'agit non pas de devenir quelque chose, mais de rentrer dans un mouvement de fuite ou d'éloignement indéfini, qu'on peut appeler femme, animal, imperceptible, qu'on peut appeler sûrement encore de beaucoup d'autres noms. Qui curieusement, d'ailleurs, à ce moment-là, mais ça me vient comme ça, qui n'est peut-être pas sans rapport avec la musique et avec la musique de Lévi-Strauss, même. C'est-à-dire que Lévi-Strauss, il est peut-être plus dans une certaine façon de penser le sens qu'il ne le voudrait lui-même. Alors, voilà. Moi, c'est tout ce que je voudrais ouvrir. Enfin, je veux dire, c'est tout ce qui me pousse à essayer d'ouvrir, de réouvrir ce dossier, je dirais, de l'affaire du sens. C'est que nous sommes peut-être sollicités maintenant de penser à nouveau frais le sens comme un renvoi infini, ce qui ne veut pas dire à l'infini, ce qui ne veut pas dire en pure perte, ce qui ne veut pas dire une satisfaction qui n'arrive jamais. Ce qui ne veut pas dire non plus une satisfaction qui arrive tout le temps. Ça veut dire autre chose, qu'il faut penser à cet endroit-là. Et la toute dernière chose que je vais dire maintenant, comme ça, en introduction, la toute dernière chose, c'est que ce que je dis là comme une sollicitation qui s'adresse à nous, une tâche, dont il faudrait s'occuper. En disant cela, j'ai l'air de lui donner l'allure d'un problème nouveau, de nouvellement débarqué, tout frais. Voilà, c'est la dernière, c'est la dernière actualité philosophique, mais au contraire, pas du tout. Je crois qu'il faut dire que ça a toujours été ça, l'affaire de la philosophie. C'est-à-dire que vous... Là, je le lance seulement d'une formule à titre de programme, après on peut en parler, si vous voulez, on peut aller voir de plus près. Vous ne trouverez pas un seul des philosophes de la tradition, des grands. Vous n'en trouverez pas un seul. Quand je dis des grands, c'est toujours embêtant. Parce que, au nom de quoi on dit des... Alors, il faut que je renverse les choses. Plutôt, je dirais, les grands, vous les reconnaîtrez à ceci, qu'il n'y a jamais chez eux d'accomplissement de sens, ni de satisfaction du sens. Mais pas un seul, je vous le promets. Surtout pas Platon, auquel peut-être certains seraient tentés de penser tout de suite, ni non plus Descartes, auquel d'autres pourraient penser. J'allais dire presque encore moins Hegel, parce que Hegel n'est pas le penseur de la fin de l'histoire que Kojève croyait. Je vous dis pas un. Chez chacun, au contraire, vous trouverez une manière, évidemment, chaque fois très singulière, de ménager, même de creuser ou d'aggraver l'infinité du renvoi. Et j'ajouterai enfin que vous ne trouverez pas non plus un seul, alors, quel mot faut-il, un seul théologien, pas sûr que ce soit le mot juste, mais mettons ici pour quand même faire simple, vous ne trouverez personne dans la pensée, encore une fois peut-être pas strictement théologique, mais disons dans la pensée, dans encore la grande pensée spirituelle, des, en tout cas pour ce qui est de nous, de nos traditions, des trois grands monothéismes, personne pour qui, malgré les apparences, hein, pour qui, mettons, Dieu, ou la vie éternelle, je ne sais pas quoi, la résurrection, ait été le dernier terme d'un renvoi, trouvant là sa fin et sa satisfaction. Ça, c'est peut-être un peu plus difficile à percevoir au premier abord, je l'accorde, c'est plus... Bon, le paysage est plus brouillé, mais bon, ça aussi, on peut en parler. Bon, alors voilà, voilà ce à quoi je voudrais pour le moment m'en tenir pour, comme ouverture. C'est déjà d'ailleurs bien trop long. Et voilà, alors. Oui.
J'aimerais savoir comment interpelle le philosophe ou la philosophie le fait que le mot, notamment le mot sens, se prête aussi bien à dire le sens de l'olfaction ou l'anti-intessence, en tout cas vraiment perceptif, que le sens de la marche, qui n'est pas sûr qu'il soit le même que le sens de la vie, mais aussi le sens du mot. Et le sens de l'humour, autrement dit, c'est un mot, on peut dire polysémique, il a plusieurs sens. Est-ce que cette variation du mot a à voir avec la déformabilité du concept philosophique?
Oui, d'accord, oui, c'est ça. Très très important ce que vous dites là. Oui, oui. Alors, si vous voulez, peut-être c'est bien de laisser quand même peut-être quelqu'un d'autre qui aurait envie tout de suite de poser une autre question ou de faire une autre remarque. Ou non? Oui? Ça, je note, et puis après. Ouais.
Joseph Diallo, dans son livre sur Auschwitz, dit que, en tant que survivant, il est comme une dent qui mord, qui mange, mais une dent dévitalisée. Et que, justement, ce qu'on pourrait sentir comme une perte de sens dans l'existence, pour lui et un certain nombre de gens qui ont vécu cette expérience, serait dans les apparences, oui, ils vivent encore, mais la dent est morte de l'intérieur. Et est-ce que le rapport entre le sens de l'existence ne serait pas lié à un rapport au fait d'être vivant et de se sentir vivant, et que dès lors qu'on ne se sent plus vivant, qu'on n'est plus dans un rapport à la vie de cet ordre naturel, enfin je ne sais pas comment le dire, le définir, mais un rapport qui ne se réfléchit pas, enfin, vivre c'est pas penser qu'on vit, hein. je veux dire, c'est pas penser qu'on est tuable ou mortel, et les rescapés du génocide rwandais évoquent aussi cet effondrement du sens pour eux-mêmes en tant que survivants. Donc, peut-être que ce que vous disiez sur ce malaise dans la civilisation, ce sentiment confus d'une perte de sens de la société, vient peut-être aussi de ces événements-là qui sont venus percuter l'histoire. Ah, au-delà de la question philosophique, c'est-à-dire de la façon dont on le ressent, comment un individu sent, comment pour un individu, et comment certaines expériences font que pour un individu ou un groupe d'individus, la vie perd son sens, même s'il continue à
vivre. Non, tout à fait. Tout à fait, ça aussi, c'est très important ce que vous dites. Et vous remarquez qu'il y a quelque chose de commun entre vos deux interventions et questions, c'est que dans les deux cas, il y a un appel au sensible non réfléchi, comme vous dites vous, au sensible, comme nous entendons, au sensible plutôt qu'au sensé. Et bon. Oui, bien sûr, il faut parler de ça aussi, oui, c'est très très important. Oui.
N'introduit pas inévitablement le non-sens. C'est-à-dire, et quand je dis non-sens, c'est une sorte de structure dans laquelle on a un raisonnement ou une manière de sentir qui est un peu binaire. Alors, le sens n'existe pas sans le non-sens. Alors qu'on peut venir à la référence à la matière, matière, antimatière. Enfin, le début de l'histoire, la fin de l'histoire, qui est toujours un rapport d'une chose par rapport à une autre. D'un mot par rapport à un autre, d'un sens par rapport à un autre. Donc là, on a introduit la notion du mouvement. Vous parlez musique, mais dans musique, c'est mouvement aussi. Il y a une forme de fluidité. Et dans ce rapport de sens à non-sens, il y a une notion de trajectoire. Et on est actuellement dans des sociétés qui se sont construites sur des trajectoires en grande partie linéaires dans la manière de réfléchir, dans la manière d'agir, dans un rapport de cause à effet, mais quelque chose de linéaire. Or, il semble qu'on ne soit plus dans le linéaire, si ce n'est dans l'interruption permanente de mini-linéaire, enfin, me semble-t-il. Et bon, alors il y a eu des tas de notions d'entre-deux, de qui casse ce côté binaire. Et est-ce que moi je pensais tout à l'heure, lorsque vous disiez, à quelque chose, bon, alors là on rentre dans un terme un peu différent, mais faire une sorte de deuil de la notion structurelle de sens sur laquelle on est fabriqué. On est structuré depuis quand même assez longtemps en fonction d'une forme de sens. Donc, il faudrait peut-être faire le ça se fait pas en trois jours, même si on sait qu'il faut plus s'en référer au sens. Mais qu'on a besoin d'en construire. Alors, comment introduire ça dans l'histoire de sens? Le système binaire tombe, mais comment le transformer et qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce que c'est que cet appel, quand on dit qu'on cherche le sens, il y a, en même temps que c'est appel, il y a quelque chose de vertical par rapport à une forme d'horizontalité, hein, quelque chose de sens dans le rapport du monde.
Mais oui. Bon, là, je vous réponds un peu tout de suite directement, puis après, je vais revenir sur les deux autres questions, à moins que quelqu'un veuille de tirer le signal d'alarme disant toute urgence, je veux maintenant en parler. Bon. Non, après, on se. Non, de toute façon, que ce soit bien clair, à tout moment, n'importe qui intervient. Hein. Bon, c'est pas. Mais là, comme c'est plus localisé, ciblé, votre question, j'y réponds tout de suite. En disant, bien entendu, vous avez tout à fait raison de dire si on dit sens, on pose non-sens, et si on pose non-sens, on est dans le binarisme de qui est justement le binarisme du sens aboutissant. Et non-sens voulant dire ni départ ni aboutissement. Bon, alors d'abord historiquement, je crois que même ça, on en est déjà sorti. C'est-à-dire que le non-sens ou l'absurde, et peut-être pas tout à fait le non-sens, mais bon, ça a été à un moment, ça a occupé la scène à un moment. On est déjà au-delà. Et justement, dans cet au-delà, on est justement dans cette demande dont je parle, dans cette attente incertaine. Bon, d'un mot, je voudrais vous répondre, je suis tout à fait d'accord, ce que je disais là revient à dire, en effet, il faut sortir de la binarité sens-non-sens. Parce que si c'est sens au sens de non-non-sens, ça veut dire qu'il s'agit de nier une négation, qui est elle-même justement équivalente à l'absence de ce qu'on attendrait comme réponse, satisfaction, etc. Alors, on peut proposer un autre couple qui n'est plus binaire parce que c'est pas sens non sens, c'est le mot de vérité que vous avez rappelé tout à l'heure que j'avais mis peut-être dans le livre, je ne me rappelais même pas moi. On peut faire ce que, bon, que j'ai un peu fait dans certains textes, c'est-à-dire le couple, c'est sens-vérité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est pas l'aboutissement du sens, la vérité, c'est l'interruption du sens. La vérité, c'est ce qui fait que dans l'envoi, le renvoi à de l'autre, à un moment donné, ça s'interrompt, c'est suspendu, plutôt. Ça ne veut pas dire que le renvoi n'a pas lieu, mais en même temps, il est suspendu. Mais cette interruption, alors, c'est rien. Ce n'est pas la satisfaction du sens. C'est, voilà, comment dire, c'est le blanc dans le renvoi. Je dirais que c'est ce qui se passe tout le temps. Dès qu'il y a du sens, c'est-à-dire au sens d'une communication, un échange. On échange, bien sûr, on échange des significations. Bon. Et ça fait du sens. Mais toujours, s'il y a autre chose qu'un échange de significations, d'informations, etc. Toujours, à un moment donné, ceux qui sont en rapport entre eux par cet échange, par ce renvoi l'un à l'autre, sont aussi, se trouvent aussi, du coup, dans le renvoi à cela à quoi, d'une certaine façon, il ne peut même pas y avoir renvoi ou envoi, c'est-à-dire à ce qui de l'autre est complètement inaccessible. Et il y a des. Et qui fait qu'il est autre, justement. Et qui fait que si vous voulez, qu'il n'y a de l'échange qu'à la condition que on ne se comprenne finalement jamais. Et d'ailleurs, pour commencer, même pas soi-même. Alors il y a des expressions tout à fait privilégiées de ça. Il y a des expressions qui sont justement toujours au-delà du sens, qui portent déjà ça. Alors, par exemple, on pourrait reparler de la musique, mais peut-être de l'art en général, non. De la poésie, vous voyez bien, bon, quelle est la question du rapport au sens dans la poésie. Et aussi, tout simplement, je pense que c'est quand même un exemple très très privilégié, du simple énoncé de l'amour ou d'ailleurs de l'affection en général. Bon. De cette fameuse phrase « je t'aime » qui est porteuse de tout le sens qu'on peut désirer d'une certaine façon et qui est, comme nous savons bien, dépourvue de signification et qui ne peut s'adresser à l'autre qu'à la condition de savoir qu'il n'y aura pas de retour. De retour d'information. Je t'aime, oui, je t'aime aussi, oui. Et bon. Non, mais cette... qu'est-ce que c'est le fait d'aimer, c'est Lacan, il dit d'aimer, c'est donner à un autre ce qu'on n'a pas et dont il ne veut pas. Bon. Voilà, mais oui, mais ça, c'est sur le mode caustique, ironique, ça dit ce que je suis en train... Alors voilà ce que je crois... Ce que là j'appellerais, oui, la vérité. Non. Et en pensant que par là, non, peut-être on peut déjouer la binarité dont vous parlez. Maintenant, il y a aussi une autre voie pour en sortir. Je suis tout à fait prêt, moi, à faire droit à ceux qui aimeraient mieux qu'on ne parle pas de sens. C'est-à-dire à ceux bon, qui me l'ont dit. J'ai pas de revendication là, ni d'attachement viscéral au mot de sens. Mais.
On pourrait dire qu'est-ce qu'il y a de bien à cet endroit-là, au lieu de donner un sens, de chercher.
Qu'est-ce qu'il y a de bien à cet endroit-là? Oui, mais il faudra penser ce que bien veut dire.
Non, advient qu'il y a bien.
Ah, qu'est-ce qui advient
à cet endroit-là, qu'est-ce qui surgit?
Oui, mais alors il faut quand même avoir fait une opération quelconque qui nous permettra de nous être dégagés justement du sens et de comprendre ce que signifie ce que vous proposez.
Oui,
avec quoi je peux être tout à fait d'accord.
Quand des individus sont en relation ou conversent, ça fait sens. Alors ça fait sens, mais dans le regard de qui? Pour eux, est-ce que cet espace non regardé, non perçu, non vu a un sens ou pas?
Non, mais quelque chose... Non, mais quelque chose advient, comme vous dites. D'ailleurs, comme on dit très couramment, il se passe quelque chose où il s'est rien passé. En général, si on est dans le métro et que il se passe rien entre les gens, et quelquefois il se passe quelque chose. Et si le métro est en panne dans un tunnel pendant plus de 1 minute, au bout d'un moment, ça commence à parler et tout, et il se passe quelque chose. Oui, il se passe, mais bon, mais il faut être... Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, alors, de là, enfin, si vous voulez bien, hein, je passe de près, mais non, mais le, parce que de là, moi, je reviendrai vers les deux questions précédentes, parce que justement, alors, du coup, elles insistent sur de deux manières sur ce qui donne des raisons de d'abord de tenir quand même, ou pas de tenir à, mais de s'en tenir pour un moment au sens et à s'interroger dessus. Parce que la première question posée, quand même c'est très frappant que ce soit la première, puis en plus quand vous l'avez posée, je me suis dit, tiens, mais j'aurais peut-être pu penser un peu à ça, en dire un mot. Bon. Alors, c'est très intéressant que ça vienne comme ça, et c'est très bien que ce soit venu justement de vous. Là. Moi, c'est que, d'abord, vous dites ce que dit Hegel, ce que Hegel prend un grand plaisir à faire remarquer dans l'esthétique quand il dit, c'est un privilège. Alors, il se trompe un peu, ça c'est sa germanophilie qu'il fait se tromper, il dit c'est un beau privilège de la langue allemande que d'avoir le même mot « Sinn » pour dire les deux choses, enfin, le sens intelligible et le sens sensible. Il ne fait pas attention, pourtant il était quand même assez averti pour savoir que c'était la même chose en français, mais et en latin. Bon. Mais le... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je crois que ça veut dire quelque chose, en effet, de très important, même si ça n'est pas le cas partout dans toutes les langues. C'est que ça veut dire que le sens intelligible, parce qu'en effet, ce qu'il dit, c'est au fond de lui que j'ai tout le temps parlé, hein, en référant principalement à l'idée de signification. Ça veut dire que le sens intelligible, au fond, nous le comprenons, je dirais presque de manière étrange et paradoxale par rapport à toute notre grande habitude de penser selon la division du sensible et de l'intelligible et à ce que une certaine vulgate du platonisme nous a inculqué et qui n'est pas la pensée de Platon. Donc, nous pensons le sens intelligible comme une certaine sensibilité, comme dans l'ordre d'une certaine sensibilité. C'est-à-dire que ce qui fait sens, c'est toujours quelque chose qui touche, qui se donne à sentir. Au fond, nous sommes tous d'accord aussi. Pour penser, et je dirais, il n'y a pas un philosophe là non plus qui aura jamais dit le contraire, que le sommet, si on veut, l'accomplissement, pour parler dans ces termes-là, l'accomplissement dernier, suprême, du sens intelligible, d'un sens intelligible, ou du sens intelligible absolument, il faut précisément, pour que ce soit du sens, pour que ce soit même cette plénitude de signification et de satisfaction d'un besoin, disons, de compréhension, etc., il faut qu'en même temps, ce soit sensible, que ça se donne à sentir. Et là, bon, on ne peut pas prendre le temps, mais si là encore, on peut prendre tous les philosophes les uns après les autres et montrer comment cette sensibilité de la... Alors, donnons-lui, pour cette fois, ce nom-là, cette sensibilité de la vérité, puisqu'en général, c'est la vérité qui nomme l'achèvement du sens intelligible. Mais tous, là, je vous garantis, chez tous, vous trouverez que la vérité est sensible, doit être sensible. Alors, sensible... Comment dire? Je dirais, même si elle ne doit pas être sensible au sens, elle doit être sensible à l'esprit de telle manière que l'esprit doit alors être représenté comme étant lui-même sensible. Je serais même prêt à dire que, contrairement à ce que, encore une fois, cette vulgate platonicienne, platonisante nous a habitués à penser, la philosophie a toujours, pensé, même si c'est avec difficulté, distance, avec bon, tout ce que vous voudrez, la philosophie a toujours pensé ce que, de ce qu'elle a appelé, bon, prenons le mot d'esprit, l'esprit, comme une sensibilité. Je pense qu'il n'y a peut-être pas d'exemple plus frappant dans l'histoire de la philosophie que Spinoza, de ce point de vue-là. Vous savez, Spinoza, je ne vais pas faire maintenant un cours de spinozisme, puis en plus, je ne suis pas compétent. Mais, vous savez, Spinoza, il distingue trois genres de connaissances. Hein. Et bon, disons, comme si le premier c'était la connaissance simplement sensible au sens ordinaire du mot, le deuxième, je dirais, c'est la connaissance intellectuelle au sens ordinaire du mot, aussi la connaissance, disons, par représentation et par concept, etc. Et le troisième genre de connaissance, c'est la sensibilité à la vérité. Le fait de... C'est la réceptivité sensible de la vérité. C'est... Enfin bon, je le traduis comme ça. Peut-être qu'il y a des Spinoziens dans la salle qui trouvent Non, je crois qu'on peut le dire comme ça. Ça, chez Spinoza, c'est très très fort, c'est très marqué. Ça, alors là, il faut lire les textes. C'est pas par hasard aussi que Spinoza c'est quelqu'un qui organise vraiment sa pensée en fonction de l'affect. Et de la possibilité d'être justement d'être affecté par la vérité, par l'idée vraie, comme il dit lui. Mais peut-être que certains pourraient penser que je me la joue facile en prenant Spinoza, et que alors qu'on pourrait vouloir me balancer Kant en travers, me dire alors Kant là, Kant le rigide, le formel, l'hyper conceptuel, etc. Mais je pourrais presque dire, il n'y a pas plus sensible dans le rapport à la vérité que Kant. Mais bon, peut-être que c'est pas la peine que je commence même à vouloir le montrer, dire ça nous égarerait. Chacun pourra aller y revoir par soi-même. Enfin, vous savez bien la fameuse phrase de Kant, on a toujours l'impression que c'est une espèce de guirlande rhétorique comme ça, à la fin de la deuxième critique, deux choses remplissent mon âme d'une admiration toujours renouvelée, le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale au fond de mon cœur. Mais non, il faut le lire littéralement. D'abord, Kant est un grand rousseauien, rousseauiste, un fils de Rousseau. Il écrit quand il est jeune qu'il ne peut pas lire Rousseau sans pleurer, donc il est obligé toujours de lire deux fois, tellement il est ému, mais c'est vrai, hein. Et donc là, cette phrase qui d'une certaine façon a des accents très rousseaux, mais c'est une phrase qui dit la sensibilité de la raison pure. La raison pure kantienne, c'est une raison qui est, elle est tellement sensible même qu'elle est travaillée par un tribe, comme bien une poussée irrésistible vers l'absolu, vers l'inconditionné, et que c'est à cette poussée qu'il s'agit de... à la fois d'apporter les garde-fous nécessaires par rapport à la spéculation métaphysique et en même temps de faire droit. Donc voilà, la première chose c'est ça, je dirais, la première chose qu'il faut tirer de ce double sens de sensible, c'est ça. Ensuite, vous n'avez pas dit seulement double sens, vous avez dit au moins triple, c'est-à-dire... sens sensible, sens intellectuel, dans la signification, le sens directionnel. Et vous avez aussi ajouté, très bien, d'ailleurs, le sens de l'humour. Oui, oui. Eh bien, alors, le sens, en effet, un travail qu'il faut peut-être toujours refaire, c'est d'abord de nouer toutes ces possibilités de sens ensemble, et de voir justement ce que ça donne. Peut-être qu'en effet, ça donne quelque chose qu'alors qu'on ne peut jamais ramener sous aucun des concepts que nous avons de sens. Mais donc, la première valeur dans du sensible, ça serait que du sens en général, ça touche. Alors après, il faudrait développer, ça touche, mais en disant que ça frappe, ça saisit, c'est... Et donc, justement, je dirais comme ça, par exemple, plutôt que de satisfaire, ça saisit. Quand on est saisi, c'est autre chose que d'être satisfait. Alors, donc, ça touche. Le sens directionnel, eh bien, oui, on peut le retenir comme indiquant, justement, l'ordre de l'envoi, du renvoi. En effet, du sens, ça va. Ça va. c'est pas arrêté. La question, c'est que par direction, en général, nous entendons une direction dont le but est indiqué. La direction mairie de Montreuil. Bon. Alors que justement, il s'agit d'une direction. Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est une direction dont le terme n'est pas indiqué. Peut-être d'ailleurs qu'à ce moment-là, que le mot de direction ne convient pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il ne convienne pas non plus. La direction, ça peut être de marcher toujours devant soi, comme dit Descartes. Quand on est perdu dans la forêt la nuit et qu'on n'a rien pour se repérer, il faut marcher toujours tout droit devant soi. Sans savoir où ça va, mais on arrivera bien quelque part pourvu qu'on aille tout droit. C'est peut-être pas si facile d'ailleurs d'aller tout droit en sachant qu'on va toujours tout droit. On peut très bien tourner en rond, il y a des histoires comme ça dans les contes. Mais moi je prendrais volontiers ça, je dirais volontiers, ben oui, acceptons l'idée de direction, c'est-à-dire qu'on va, qu'on continue. Et puis le sens de l'humour, alors ça je trouve ça c'est très très intéressant, parce que le sens de l'humour, c'est sens, comme on dit, de beaucoup de choses, mais enfin le sens de l'humour, c'est pas par hasard, c'est ce qui vient peut-être le plus comme exemple de ce sens de sens, c'est que l'humour, quand on parle de sens de l'humour, c'est quelque chose de difficile à attraper, de fin, de délicat, et si on n'a pas le sens de l'humour, on le rate. Et alors on croit qu'on a affaire à, je sais pas quoi, une ironie méchante, etc. Donc il y a l'idée d'un impalpable vis-à-vis duquel il faut avoir du tact. C'est quelque chose qui est de l'ordre du goût, du discernement fin. De tout cet ensemble de choses qui a une longue histoire aussi dans la pensée moderne depuis depuis les traités du goût, du bon goût, de la Renaissance, que ce soit Castiglione chez les Italiens, chez les Italiennes, l'esprit de finesse de Pascal, quelque chose qui a d'ailleurs aussi très souvent été qualifié de féminin plutôt que masculin. Donc, de manière générale, ça veut dire le rapport à l'insaisissable. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant, parce que ça veut dire que le sens ici, c'est la capacité, il ne faut pas dire sans doute à saisir l'insaisissable, parce que si on le saisit, il n'est plus insaisissable. Je dirais plutôt la capacité à se laisser saisir par de l'insaisissable. Et ça, je pense que ça ouvre quelque chose de peut-être très intéressant dans ce. Voilà, dans ce qui nous occupe, je ne sais pas si ça nous occupe, dans ce qui nous occupe, oui. C'est d'ailleurs pour ça aussi, je dirais, que tout à l'heure, j'ai nommé une fois la poésie, j'ai nommé la musique, je crois que tout ça a nécessairement les plus grands rapports avec l'art, avec ce qu'on appelle l'art. Ah, c'est-à-dire que... Et aussi, donc, du coup, avec le fait que s'il y a bien une activité humaine dont on est bien en peine de donner le sens, c'est l'art. Et l'art semble même être fait, voilà, pour défier non pas seulement une réponse finale à quel est le sens de l'art, mais pour d'entrée de jeu se donner comme ce qui s'accepte du régime du sens.
Ce que je trouvais très intéressant, là, ce que vous venez de dire, si vous me permettez.
Mais je permets.
Se laisser saisir par l'insaisissable. C'est très intéressant. Et l'idée de tact, vous parlez de l'esprit de finesse de Pascal, je crois. Il me semble qu'il y a là vraiment quelque chose qui me touche. Et si vous permettez également, je voudrais reprendre cet épisode assez simple, mais que je trouve très efficace, du métro, dont on parlait tout à l'heure. Alors, vous disiez, c'est que quand, par exemple, il s'arrête pendant une minute en plein couloir, tunnel, qu'il se passe quelque chose. Et en fait, on sent qu'il se passe quelque chose tout le temps, mais c'est simplement qu'à ce moment-là, avec cette espèce d'habitude, quoi, des sens qui croient sentir toujours la même chose, qui croient prédire peut-être toujours la même chose, il y a quelque chose qui rentre, il y a une sorte de rencontre, et là on se rend compte qu'il se passe quelque chose, alors qu'on croyait qu'il ne se passait rien. Mais finalement on peut se rendre compte qu'il se passait déjà quelque chose. Et peut-être que c'est à ce moment-là que cet insaisissable nous saisit, parce que c'est comme si on attendait toujours ce moment. Et alors, je ne sais pas, tout à l'heure j'étais dans le métro et il y a quelqu'un qui parle un peu tout seul, qui grogne, etc. Et qui dit, alors, et qui n'arrête pas de répéter, alors toute ta vie tu vas payer ton studio, cela, tu vas travailler pour payer ton studio, etc. Et puis, bon, visiblement il ennuyait certaines personnes qui n'osaient rien dire, et c'est au moment où il s'était à sortir qu'un mec dit, arrêtez d'embêter les gens, etc. Et à ce moment-là, il s'énerve, mais la porte était déjà en train de se fermer. Enfin, en fait, ce qui me fait... Et puis, je voudrais revenir à ce que vous disiez au début. On dit aujourd'hui, oui, alors, c'est très difficile de donner un sens au monde. On n'arrive pas, on est perdu. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui. Oui, on ne sait pas donner un sens au monde. Et c'est presque comme si c'était une manière de... tout de suite de dire, non, bon, bah, on ne sait pas donner un sens au monde, c'est pas possible, quoi. Et, alors que ça commence peut-être justement dans quelque chose de complètement sensible, de se laisser aller dans cet insaisissable, parce qu'un sens, on ne sait pas donner un sens au monde, c'est comme si on donnait tout de suite une fixité, une réponse finie, on fermait en un cercle, ce qui pourrait être une spirale de renchérir, de surenchérir. Et je pense à un mot d'Artaud, si je peux me permettre, dernièrement de citer, qui me paraît très bien resitué, cette espèce d'attente toujours de cette rencontre inévitable pour se rendre compte que, ah bah oui, on peut se laisser porter par l'insaisissable, ah bah oui, il se passe quelque chose. Et alors c'est Artaud qui, je ne sais plus dans quoi, dit, moi, je réponds, que nous sommes tous dans un épouvantable état d'hypotension. Et nous n'avons pas un atome à perdre sans en revenir immédiatement au squelette. Alors que la vie est une incroyable prolifération. L'atome éclot en pond un autre, lequel en fait immédiatement éclater un autre, etc. Attendre. Je ne sais quel apocalypse d'au-delà. L'éclatement de quel au-delà pour se décider à reprendre les choses est une crapuleuse plaisanterie.
Oui, je reconnais ce passage-là.
C'est maintenant qu'il faut reprendre vie.
Vous savez beaucoup d'Artaud par cœur.
Oui, c'est parce que je trouvais que ça collait. Oui,
c'est bien. Non, mais vous avez raison.
Vous avez raison.
C'est l'hypotension que j'aime bien là-dedans. C'est vrai. C'est vrai, surtout que j'allais dire, en enchaînant sur ce qu'on disait pour du sensible, de l'art, etc., j'allais dire que tout ça est une question justement d'intensification. Que ce qui est en jeu justement dans le sensible, dans le sens comme sensible, c'est une question de monter en intensité. Et que c'est tout à fait autre chose qu'une question de satisfaction. Parce qu'en général, d'ailleurs, en plus, bon, on n'a pas abordé ce registre-là, en général, la satisfaction est représentée selon un modèle dont, ben, à certains égards, Freud est très représentatif, mais là, je trouve que c'est justement une des faiblesses de Freud, au moins une certaine couche du texte de Freud se représente toujours la satisfaction, ce que Freud appelle le plaisir terminal. En matière sexuelle, comme en matière esthétique, du moins si on se rapporte aux deux livres jumeaux qui sont le Witz d'un côté et les trois essais de l'autre, comme un abaissement des tensions et une décharge. Décharge de la tension dans un abaissement. Donc, au fond, l'entropie comme satisfaction. Alors, ça aussi, ça c'est une mine très riche de pensée. Et si l'idée d'aboutissement du sens n'était pas toujours forcément lié à une espèce de modèle anthropique. C'est-à-dire, si on n'a plus rien, tout va bien, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de tension, plus rien à chercher. Par rapport à quoi, je suis tout à fait d'accord avec le Artaud que vous citez pour dire, alors ça veut dire seulement qu'on souffre d'hypotension, hein, si j'ai bien suivi de votre citation, on souffre d'hypotension et c'est en remontant la tension, en prenant quelques hypertenseurs, que oui, les deux, tension et l'attention, à ce qui advient, que on peut se soustraire à l'apocalypse de l'au-delà, hein, c'est ça, qu'est-ce qu'il dit, plaisanterie, non, ou je sais pas quoi.
Non, mais c'est une plaisanterie.
Crapuleuse.
L'attente de quel au-delà, quoi. De quel au-delà pour, je pense que vous disiez, pour se décider à se laisser saisir par l'insaisissable.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Mais, alors dans le sens sans artifice, hein, j'introduis l'écho de la deuxième dans l'ordre question, intervention, c'est que la question d'Auschwitz et du Rwanda, la question d'un certain état de, comment est-ce qu'il faut l'appeler, de désastre, quoi, de destruction du monde actuel, elle n'est pas non plus quelque chose qu'on puisse simplement contourner. Hein. Bon, c'est vrai, c'est là, et le premier effet de ça est alors justement un sentiment d'atroce, d'épouvantable, d'irrattrapable perte de sens, hein, et que, en même temps, je crois que vous situiez très justement comme, justement, pas comme la perte d'un grand sens final, mais comme la perte de simplement se sentir vivant, et de manière non réfléchie, disiez-vous. Ah, c'est ce qui ouvre d'ailleurs quelque chose de... Oui, j'aimerais bien qu'on arrive à y revenir. C'est très très difficile d'aborder justement la question du non-réfléchi. Du non-réfléchi qui est en effet exigé comme moment du sentir, du moment, enfin, comme aspect, comme caractère, qualité du sentir. Il faut bien que dans le sentir, que le sentir ne soit pas lui-même suspendu, interrompu par la réflexion. Bon. D'ailleurs, remarquez bien que ça aussi, c'est une proposition philosophique qui se trouve chez quelqu'un chez qui, quand on ne sait pas, on ne s'attend pas du tout à la trouver, c'est Descartes. Quand il veut parler de l'union de l'âme et du corps, cette chose que souvent on imagine chez Descartes très lointaine, très difficile, et comme une espèce de rattrapage in extremis, après qu'il ait bien séparé les deux substances, on sait bien, Descartes, c'est le grand dualiste par excellence. Quand Descartes doit parler de l'union de l'âme et du corps, il dit, il écrit, c'est une lettre à la princesse Élisabeth qu'il interrogeait là-dessus, il lui dit que l'union de l'âme et du corps, on ne la connaît jamais mieux que quand on n'y pense pas. Et qu'on est dans l'exercice courant de la vie quotidienne, de l'activité quotidienne. Et ce n'est pas du tout pour abaisser ni l'objet de cette connaissance, si vous voulez, ni cette connaissance elle-même. Je dirais même que c'est une sorte d'autre évidence, symétrique de celle du cogito, mais située à l'autre bout, mais qui est au fond, pour Descartes, la véritable évidence. C'est celle de se sentir vivant dans les affaires du monde et de la vie tout le temps. Et comme juste après, dans la même lettre, il dit que les autres connaissances, les connaissances proprement métaphysiques, et puis aussi mathématiques, ne sont jamais que des préalables à la vie, dans laquelle il s'agit justement
d'éprouver, non, de sentir l'union de l'âme et du corps, ça en dit long sur ce que sur l'image, en tout cas courante, qu'on se fait de Descartes. Mais maintenant, je reviens à Auschwitz, au camp et au... Je ne sais pas quel terme on pourrait employer pour... Je pense à le Rwanda, enfin bon, holo. À ce désastre. Ce qui, je crois, doit être très fortement mis en avant, c'est que Auschwitz procède d'une volonté à procéder, d'une volonté forcenée de sens, d'une imposition de sens et de signification absolue. Auschwitz repose sur la possibilité de dire et de désigner où est le sens. Et dans tous les sens, hein, où est la signification dernière, où est la direction à prendre, et par conséquent, alors on sait ce qu'il s'agit de supprimer, et on peut le supprimer, et on doit le supprimer, parce que ça fait obstacle à la réalisation du sens. Et en ce sens-là, je crois que il faut toujours, d'une certaine façon, reprendre la mesure de ce à quoi ça a répondu. Bon, et d'une autre manière, les camps soviétiques aussi, d'une autre manière, la possibilité, peut-être de toutes les formes de massacres, de génocide, d'extermination contemporaine aussi, bon, on pourrait sans doute montrer comment de manière dérivée ça procède de la même chose. Je dirais, il faut toujours reprendre la mesure de ceci, que précisément, ça a été possible comme la réponse à un sentiment. Ça, c'est un mot aussi qu'on n'a pas introduit, qui au fond circule derrière votre question, le sentiment, le sens comme sentiment, le sentir. Comme la réponse à un sentiment de perte de sens. Avec la perte du sens, ça commence quand est-ce que ça commence? Et puis il y a quand même quelques repères. Je dirais, il y a Nietzsche d'abord. Nietzsche, je pense, est vraiment le premier témoin philosophique de la perte du sens. C'est ce qu'il appelle le nihilisme. Bon, nihilisme, ça veut dire ça. Hein. Ça veut dire pas de sens. Bon. Et Nietzsche est celui qui a écrit la phrase qui est au fond peut-être la phrase qui m'a suscité il y a très longtemps là-dedans et qui continue à être pour moi quand même peut-être un peu une forme de cet appel du sens. Voilà, c'est une phrase dans les posthumes où il dit « Introduire un nouveau sens, étant entendu que cette entreprise elle-même n'a pas de sens, voilà désormais la tâche. » Bon, vous voyez le jeu, introduire un nouveau sens, bon. Je suis moins sûr aujourd'hui, peut-être, d'assumer la phrase de Nietzsche entièrement, je veux dire, introduire un nouveau sens. Bon, est-ce que c'est une phrase qui est parente par exemple, de la fin du fameux aphorisme sur l'insensé qui annonce la mort de Dieu, et qui se termine par « Quel jeu sacré inventerons-nous » maintenant que nous sommes orphelins de Dieu. Donc c'est inventer des jeux sacrés, introduire un sens nouveau. Bon, mais l'avantage évidemment de la formule des posthumes, c'est plus à me rappeler le mot allemand qu'il emploie, que je rends la part. Enfin, étant entendu, hein, étant bien entendu que cette entreprise n'a pas de sens. Eh bien, Oui, pourquoi je dis ça? Pour dire oui. Bon, Nietzsche, je crois, est le premier témoin de ça. Et le second témoin, c'est l'Europe de la Première Guerre mondiale. Et vous voyez que c'est de là, c'est-à-dire que tout est sorti, hein, historiquement. L'Europe de la Première Guerre mondiale, c'est l'Europe qui se découvre capable de se massacrer elle-même sans plus pouvoir donner de sens, justement, à quelque chose qui, désormais, d'ailleurs, a déjà commencé à échapper à la représentation, au droit au sens limité, au droit des gens en général, qui jusque-là régissaient ou semblaient régir la guerre. Là, je crois, là, il s'est passé quelque chose qui... Donc, si vous voulez, en étant un peu brutal, je dirais de tout ce qui s'est passé dans la suite, hein, les fascismes, le stalinisme, la Deuxième Guerre mondiale, Auschwitz, etc., dont au fond, je dirais peut-être l'Europe n'a pas cessé de vouloir farouchement essayer de penser que c'était une succession d'accidents fâcheux, très fâcheux, mais quand même des accidents et très alors très fâcheux et puis en plus très répréhensibles dans leur finalement ce à quoi ils ont donné lieu, moyennant quoi on les condamne, on dit c'est très mal et plus jamais ça. Très bien. Bien entendu, je ne veux pas dire si, encore de ça. Bien entendu, plus jamais ça. Mais le plus jamais ça ne peut pas se penser, ne peut pas devenir une affaire de pensée. Et du coup, ça va très loin, parce que peut-être que ça ne peut pas non plus donner vraiment ni une politique, ni du travail philosophique, ni de quoi justement se sentir vivre, si on ne se dit pas que ce qu'on ne veut plus jamais voir, ça n'est pas sorti de nulle part. Que c'est sorti de toute notre histoire. Et ça, évidemment, c'est très délicat, parce que je ne veux pas faire maintenant, un sens de l'histoire à rebours. Mais je crois que ça, c'est très, très important. Il faut, je dirais, sans cesse, se dire, bon, ça c'est le nihilisme, donc comme Nietzsche l'a nommé, pourquoi, comment, est-ce que c'est... Alors, est-ce que le nihilisme n'est pas... voilà qui ramène au couple du sens et du non-sens. Est-ce que le nihilisme n'est pas le renversement brutal des catastrophiques d'une suffisance de sens, de signification qui avait cru être acquise.
Mais est-ce qu'on n'est pas obligé d'introduire à ce moment-là, pour travailler la question du sens, la question de la raison et de son rapport avec le sens? Parce que pour une personne qui se retrouve dans un génocide, ce qui correspond à une perte de sens, c'est une déconnexion entre une rationalité qui normalement est quelque chose qui fait sens et qui d'un seul coup ne fait plus sens. C'est-à-dire, la rationalité devient purement mortifère, par exemple. Rationalité économique de la mort, tout ça est pensé de façon tout à fait raisonnable, et c'est pas dénué de sens au niveau des articulations logiques. C'est parfaitement... C'est ça qui me semble abyssal dans cette question de sens, c'est-à-dire que est-ce que la façon dont on pourrait se ressaisir du sens, c'est de se saisir de tous les sens en même temps. si je puis dire. C'est-à-dire de tous les sens en même temps, y compris le non-sens, non pas comme une possibilité, une des possibilités du sens, et l'essence, le sens commun, mais aussi le sens interdit, mais aussi les sens uniques, je veux dire, bon, tous les sens, le sens de l'humour dont vous avez parlé, tous les sens, parce que aujourd'hui, moi, ce que j'ai relevé dans votre introduction, dans ce sentiment diffus d'une perte de sens de la société, etc., bon, qui n'est pas une question nouvelle, qu'on peut faire remonter à Nietzsche, mais qui a aussi quand même un enjeu tout à fait actuel au niveau de la pensée, pas simplement de la pensée philosophique, mais de la pensée de notre vie, de citoyen. Aujourd'hui, quand il y a des gens, par exemple comme Lanzmann, qui disent la Shoah, il n'y a rien à expliquer, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer, finalement, ça n'a pas de sens. Il dit, ne cherchez pas à expliquer, toute explication est vaine. Alors, quand on arrive à dans un registre mineur sur le plan intellectuel, un Bernard-Henri Lévy commet un bouquin sur la guerre, il dit, le pire ne serait-il pas de vouloir donner un sens à des guerres qui n'ont pas de sens. Il parle de la guerre du Burundi. Si, pour qui connaît un peu le Burundi, c'est pas une guerre qui n'a pas de sens, c'est pas le même sens. Il ne s'agit pas du sens pour la personne qui a été prise dans des massacres ethniques, où effectivement, d'un seul coup, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la perte de sens. Mais à un autre niveau, il y a un autre niveau de sens. Donc, il y a des empilements de sens. Alors, est-ce que, justement, la difficulté, c'est qu'on ne parle pas du même sens, si je puis dire, que le sens, ça s'applique... Bon, j'étais clair. Ça s'applique à tellement de choses d'un registre différent depuis le plus sensible, ça veut dire que quand je vous écoute, si je comprends tous les mots, je peux leur donner un sens. Si j'en loupe quelques-uns, je risque de louper. Bon, depuis le plus sensible jusqu'à un système d'explication du monde et de conception du monde. Et pour terminer, ce que je ressens, c'est une expérience par rapport à des situations comme ça, ou des expériences de perte de sens, ce que je vois aussi, c'est que pour un individu, dans une conception classique freudienne, ce qui fait traumatisme, c'est la perte de sens. C'est-à-dire l'incapacité d'intégrer un événement et de lui donner un sens. Donc oui, la question, c'est bien de la donne de sens. Que le sens n'est pas donné d'avance, une vision de l'histoire déjà écrite, un sens soi-disant de l'histoire, mais ça ne veut pas dire que l'histoire n'a pas de sens, parce qu'il n'est pas donné d'avance, par exemple.
Oui, mais s'il n'est pas du tout donné d'avance, c'est qu'il n'est pas donné du tout. Et que, par conséquent, on remet tout en jeu sur l'idée des mêmes de sens, à ce moment-là. Pour Freud, vous me rappelez, pour Freud, vous me rappelez quelque chose que je voulais dire tout à l'heure. Que, vous savez, il y a une lettre de Freud où il dit, si je ne me trompe pas, je crois que c'est la même lettre où il parle de sa chienne qu'il voit, qui s'en dit, mais comme elle est bien là, elle est heureuse, elle ne se pose pas de problème. Et il dit, elle me fait penser à l'air du champagne de Don Juan. Il cite d'ailleurs Fink Albino. Bon. Et puis, il dit, si je ne me trompe pas, c'est la même, mais peu importe. En tout cas, il dit, à ce moment-là, il me semble, ça je garantis la citation, celui qui commence seulement à se poser des questions sur le sens de la vie, il est déjà dans la pathologie. Freud, il sait de quoi il parle. Hein. Donc ça, c'est même pas la névrose. Hein. C'est, c'est est-ce que ma vie a un sens? Bon. Et j'y pense parce que je crois que c'est exactement la question de se sentir vivant. Et ce qui est très délicat là-dedans, c'est que évidemment, Freud lui-même, là, je le cite, c'est pour ça que je suis bien aise de le trouver là, parce que Freud, en parlant d'un chien, est-ce qu'il est en train de nous donner le chien comme exemple de se sentir vivant, là, vraiment sans problème? Parce qu'en fait, en général, le chien ne souffre pas, du moins pas de la même manière que nous, des génocides, ni des excès de la rationalité.
à quoi je reviens tout de suite. Hein. Non. Donc, admettons, ce chien de Freud, il faudrait le soumettre à une union, alors absolument contre nature, première apparence, avec le devenir animal de Deleuze. Est-ce que l'animal de Deleuze, ça va être ce qu'a l'air d'être la chienne de Freud? Bon, certainement pas. Donc, voilà, mais j'en dis pas plus dans ce sens-là. Parce que surtout, je voudrais revenir à ce que vous avez dit de la rationalité, parce que ça, c'est très important aussi. C'est que ça nous oblige toujours à remonter un peu en arrière. C'est que le nihilisme dont Nietzsche entérine, au fond, le règne advenu, et dont il crée, au fond, le concept en prenant le mot, comme on sait, à une tradition politique russe récente, et auquel il donne la valeur de concept concept. Le nihilisme, il arrive après que l'exigence de la raison comme raison des choses, c'est-à-dire finalement comme sens, que l'exigence de la raison, oui, comme raison de tout ce qui est atteint son point culminant avec Leibniz, et ce qu'on appelle toujours le principe de raison de Leibniz, qui est le principe qu'on appelle principe de raison suffisante, et qui est en effet chez Leibniz, principe de la raison suffisante, aussi principe de la raison qui doit être rendu principium redende rationis. Redende est en voulant dire qu'il faut rendre. Donc, il faut bien rendre raison. On dirait dans l'idée du principe leibnizien, il y a le désir, la demande, l'attente. Il faut qu'il soit rendu raison de toute chose. Et ce principe-là implique qu'il y a une raison de toute chose. Et que donc, d'une manière ou d'une autre, faut y parvenir. Heidegger a consacré tout un livre qui s'appelle justement le principe de raison, Der Satz vom Grund, à ce principe de Leibniz. Il dit à Heidegger quelque chose que je trouve très, très frappant, parce que c'est extrêmement audacieux, aventuré, presque comme proposition sur l'histoire. Bon, il dit que le principe de raison de Leibniz arrive au terme d'une très longue incubation. L'incubation de la pensée, mais la pensée au sens le plus profond, le plus large, de ce qui structure l'Occident dans sa pensée. Et après donc une très longue incubation, finit par se formuler comme ça, nécessité de, et par conséquent, possibilité, forcément, à terme, d'une manière ou d'une autre, de rendre raison de tout. L'analyse de Heidegger consiste aussi à montrer, consiste à montrer que c'est justement au moment où enfin le principe sort de cette incubation séculaire qu'il s'avère qu'il est complètement démuni, qu'il ouvre un gouffre sous lui. Et que, si vous voulez, en effet, on peut le montrer, à partir de Leibniz, qui lui-même, en effet, ne répond pas, qui ne donne pas le principe de raison, qui dit que le principe de raison exige qu'il y ait, bon, etc. Et même si on veut dire que d'une certaine façon, en effet, bon, Leibniz pense présenter ce principe de raison. Non, en tout cas, après Leibniz, je crois qu'on peut tranquillement dire qu'il n'y a pas un philosophe qui va prétendre satisfaire au principe de raison. Même pas Hegel. Parce que Hegel, qui peut-être paraît le plus satisfaire, Hegel qui va dire le réel est rationnel, le rationnel est réel, Hegel vous emmène la raison dans une aventure proprement infinie,
telle que, je dirais, la raison y perd sa raison. Enfin, elle s'y perd, en tout cas, en tant que raison devant être rendue des choses. C'est à ce point-là que je dis que, bon, c'est pas que la lecture de Hegel par Kojève n'est pas possible. Bon, c'est pas qu'elle ne tient pas compte, vraiment, de ce qui est le plus profond, le plus aigu dans la pensée de Hegel. Entre les deux, entre Leibniz et Hegel, il y a eu Kant. Et Kant, qu'est-ce qu'il dit, Kant? Kant, ce qui n'est pas par hasard celui qui fait pivoter vraiment le monde classique, du monde classique au monde moderne, hein, dans la pensée. Voilà. Kant, il dit, la raison, elle est, j'ai mentionné tout à l'heure, elle est travaillée par un tribe. Bon, c'est le mot qui ensuite chez Freud on traduit par pulsion, pardon, pousser, treiben en allemand, ça veut dire, oui, pousser, là, par un tribe de l'inconditionné. Elle veut absolument l'inconditionné. L'inconditionné, c'est en effet, c'est le fond de toute chose, c'est ce qui n'est soumis à aucune condition. Donc, on peut dire, l'inconditionné, c'est ce qui en effet va pouvoir donner le sens de tout, ce qui va rendre raison de tout. Mais, Kant, ce tribe de la raison la pousse à se fabriquer des objets absolus qui sont en même temps des objets impossibles parce qu'ils ne peuvent pas être des objets de connaissance. Alors, c'est le côté qu'on connaît le plus facilement de Kant, c'est la destruction des grands objets de la métaphysique qui sont nommés comme le moi, le monde, Dieu, non? Mais à la place, quoi? À la place, quant à une formule, évidemment, qui est lourde d'ambiguïté, un nid de malentendus possibles, peut-être même à l'intérieur de Kant, c'est la très fameuse phrase de la deuxième préface à la première critique, « Je devais supprimer le savoir », c'est-à-dire supprimer le savoir de ces soi-disant objets, objets métaphysiques, pour faire place à la croyance. Et la croyance ou la foi, parce que l'allemand n'a qu'un mot, là, c'est Glauben. Hein. La croyance ou la foi, chez Kant, ça va être quoi? Je laisse complètement de côté la croyance ou la foi dans ce qui est appelé des postulats de la pensée pratique chez Kant, donc l'idée d'un règne des fins, Non. Là, essentiellement, ce que Kant appelle ici croyance ou foi, c'est la reconnaissance par la raison de ceci que, ce qu'il appelle ailleurs, la clé de voûte d'un système entier de la raison pure aussi bien que pratique, que ça, la clé de voûte s'appelle la liberté, et que la liberté, justement, n'est pas connaissable, ne peut pas être donnée comme un objet. Elle est au contraire un principe d'activité, de rupture avec l'ordre des rationalités données. Bon, je dis seulement ça, parce que je ne veux pas trop tirer Kant, c'est pas vers nous, trop le... Bon, mais je veux dire que dans l'épisode kantien, et c'est sans doute ce qui donne vraiment toute son importance à l'épisode kantien et à la rupture kantienne, la raison se met elle-même devant sa propre exigence de raison autrement que devant l'exigence de rendre raison. Alors, elle se met devant une exigence qui, d'une certaine façon, n'est pas une exigence de sens. La liberté kantienne n'est pas vraiment de l'ordre du sens, non, je ne crois pas que c'est ce qui serait correct de la nommer ainsi, du moins au sens habituel de sens. Mais cette liberté, elle veut dire, toujours dans les termes kantiens, que l'homme essentiellement, il est libre parce qu'il est l'être des fins. Il peut se donner des fins. Il n'est pas celui qui a des fins déjà données, mais il peut s'en donner, s'en redonner toujours intimement. Peut-être qu'aujourd'hui, cette idée de l'homme comme être défunt prend une tournure plus compliquée, peut-être même inquiétante, dans la mesure où nous ne cessons pas, en effet, de toujours produire, fabriquer des fins nouvelles et qui elles-mêmes ouvrent à d'autres fins, etc. Et que ça, au fond, c'est le régime de ce qu'on appelle la technique. Mais même ça, peut-être, ça veut dire quelque chose. Bon. En tout cas, voilà, moi j'ai dit tout ça pour dire que je reconnais entièrement, dans ce que vous dites, la nécessité de remettre, je dirais, en chantier, comme ça l'avait été, encore une fois, après la Nice et par Kant, mais aussi par Hegel, d'une certaine manière, comme ça l'a été ensuite et par Husserl, les pareils de Heidegger, bien entendu entre les deux par Nietzsche, la question de la raison. Et de ce qu'il en est, de ce que Kant appelle la raison pure, qui d'ailleurs déjà chez Kant comme raison se distingue de l'entendement, et au fond, quand on parle de rationalité, on parle de tout ce que Kant couvre par le mot d'entendement. C'est-à-dire, c'est l'ordre des causalités, par exemple, en effet. Mais qu'est-ce qui excède l'ordre des causalités ? Voilà. Ça peut être aussi une bonne formule, peut-être, pour redémarrer la question du sens. La question du sens, c'est ce qui commence quand on sort de la causalité. Ça coupe court aux causalités. Et c'est en effet la question aussi de ce qui arrive. Alors, madame dit tout à l'heure, ce qui advient, c'est la question de ce qui arrive, et de ce qui part, d'ailleurs. C'est la question de la naissance et de la mort. Alors, c'est en effet la question de ce à quoi on ne peut pas donner de sens. Alors, je repense à ce que vous dites, de ce que Lanzmann dit à Shoah. Mais là, je ne sais pas, je ne peux pas très bien décider parce que je vois pas bien les contextes. Là. Je sais bien que Lanzmann dit ça, mais maintenant c'est un peu vague, un peu lointain. Et je suis partagé entre l'idée que peut-être en effet, d'un côté, il faut dire que quelque chose est arrivé là qui nous prive complètement de la possibilité d'en déduire le sens, mais que quand même, de notre côté, ça ne veut pas dire qu'il faut détacher ça de tout un ensemble de rationalités techniques, politiques, etc., qui font que ça s'est inscrit quelque part, et comme je te le disais tout à l'heure, et ça c'est très difficile à dire, c'est pas par hasard qu'on en est venu là, bien que je ne puisse pas maintenant vous dire la nécessité rationnelle qui a mené là. Mais bon. Pardon ? Ben oui, mais ça, je crois qu'on peut dire en effet les deux à la fois, parce que par exemple là, c'est une énorme discussion parce que qui va très très loin, parce que par exemple si on se demande ce qui fait du juif la victime par excellence de d'Auschwitz. Que tout en étant, je pense, là récemment, il vient d'y avoir un débat à cause du livre de Badiou qui s'est fait étrier pour dire ça n'est pas du tout l'événement, etc. Bon, moi, je comprends très bien toute la réserve de Badiou vis-à-vis de cette sacralisation et d'une instrumentalisation sacralisante de la Shoah. Je ne peux pas pour autant partager sa manière de en quelque sorte, la ramener à ce qu'il appelle un monstrueux crime d'État, parce que c'est faire bon marché de l'histoire de l'anti-sémitisme, du moins de l'anti-judaïsme antérieur. Et qu'est-ce que c'est que l'anti-sémitisme et judaïsme, sinon quelque chose qui a une place bien particulière dans l'histoire de la pensée et de la conscience occidentale, qui est quand même très très liée à la formation du christianisme, etc., et qui donc donne, je ne sais pas, d'un mot, et sans vouloir non plus trop rationaliser là, mais quand même, comment ne pas avoir le sentiment qu'il a fallu que cette civilisation se fabrique une manière d'exclu interne, nommément le juif, qui d'ailleurs n'est peut-être même pas le seul, parce que peut-être que, je me demande s'il ne faudrait pas se demander si notre culture n'est pas, je dirais, spécialiste en fabrication d'exclusion interne. Par exemple, pour montrer qu'il peut y avoir quelque chose de tout à fait différent de la question du juif, encore que tout d'un coup, en le disant, je découvre qu'il y a une connexion, peut-être pas par hasard, je veux dire, entre le juif et le marchand. S'il y a bien quelque chose que, alors là depuis des temps plus récents, mais ce n'est quand même pas tout à fait récent, que notre civilisation n'aime pas, qu'elle péjore sans le persécuter comme lui, c'est le marchand, c'est le commerce, bon, le dernier grand anathème d'auto-critique de notre culture, c'était le spectaculaire marchand de Debord. Et notre civilisation doit aux marchands beaucoup de choses. Je suis toujours très frappé quand je pense au rôle considérable des grands marchands italiens, puis allemands, enfin bon, c'est ces gens-là qui ont joué, alors pour prendre tout de suite le pôle le plus frappant, qui ont joué un tel rôle dans l'histoire de l'art. Bon. Mais on n'en veut pas. Alors, c'est comme l'art aussi. L'art lui-même, c'est en quelque sorte quelque chose que notre culture porte au pinacle et en même temps rejette dans le dangereux, l'inutile ou tout simplement le privé de sens. Ça, peut-être que de fil en aiguille, on peut dire que la question, c'est la question d'une raison. D'une raison qui ne peut pas ne pas ne pas se donner des objets privilégiés d'exclusion, de refoulement, de rejet. Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec ce que Freud appelle malaise dans la civilisation. C'est-à-dire que quand même, on est la civilisation qui arrive à produire dans une des grandes inventions théoriques, comme ça, de son état plus moderne, je veux dire la psychanalyse, qui, quoi qu'on en pense par ailleurs, est aussi un événement qui arrive et qui déplace... déplace quand même considérablement les assises de la manière même de considérer l'homme, etc. Et que dans la psychanalyse, le fondateur de la psychanalyse en arrive à poser la question de la civilisation comme de cela qui est malade et à quoi précisément la psychanalyse elle-même, évidemment, ne peut rien faire, parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour guérir, pour soigner ce genre de choses. Je trouve que cet épisode est extrêmement frappant, quand même. Et d'ailleurs, c'est comme toute l'histoire de Freud. Freud, c'est quelqu'un qui est allé de plus en plus vers les questions de la civilisation, de la culture, de la société comme telle, et qui précisément découvre qu'à cela, on ne peut pas appliquer les catégories de la maladie et de la guérison. Et quoi qu'on dise que la psychanalyse n'a pas à se situer sous ces catégories-là, bon, ça, on peut en tomber d'accord, mais ça n'empêche pas que ce sera justement les catégories qui vont retomber lourdement quand il s'agit du collectif, de la civilisation. Alors, Bon, bref. Bref, tout ça pour revenir à ceci. La question est bien celle de la raison. Et d'ailleurs, il y a un philosophe qui a écrit son plus grand livre, en tout cas en quantité, sous le titre de La crise des sciences européennes, mais sous le titre de La crise des sciences européennes, il entendait une crise de la raison européenne. C'est Husserl. Le problème, si vous voulez, c'est que dans la crise des sciences européennes, Husserl pensait qu'une puissance propre, autonome de la raison occidentale, qui s'était perdue, égarée, etc., devait être à même de surmonter sa propre crise. Pour Husserl, c'était encore seulement de l'ordre de la crise. Et justement, la crise, ça se surmonte, ou ça se guérit, si on veut. Je crois qu'il est vrai que nous devons nous demander si c'est d'une crise qu'il s'agit, si ça se guérit, ou s'il faut attendre que ça se passe, ou si ce n'est pas d'autre chose de plus structurel, de plus structurant, autre chose, dirait d'ailleurs, dont le nom pourrait bien être capitalisme, qui est quand même la forme globale, englobante de la rationalité. Et qui est précisément la forme la plus propre, et plus ça va, plus elle y est propre, à manifester une sorte de déperdition complète du sens, mais comme étant la raison même de son fonctionnement. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que le capitalisme? Je ne suis pas, on peut dire, c'est... Je sais que j'ai un peu une mauvaise tendance à dire que ceci ou cela, c'est très simple. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de vrai. Le capitalisme, c'est très simple, c'est l'équivalence générale. Marx l'a très très bien vu. Et l'équivalence générale, c'est en effet, c'est la disparition de tout sens, parce que dans l'équivalence générale, il ne peut plus y avoir de renvoi. Parce que tout renvoie à tout, mais de la même manière. Bon, c'est-à-dire tout a une valeur mesurable par la mesure générale de l'équivalence. C'est-à-dire, bon, si c'est l'argent, mais c'est plus que l'argent, c'est au-delà de l'argent, c'est au-delà avant de ça. C'est tout simplement l'équivalence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre valeur que l'égalité et la transformabilité, la convertibilité de toute valeur. Pour Marx, ça voulait dire la disparition, l'absorption dans cette équivalence de la valeur absolue, qui pour Marx n'est pas du tout la valeur, par exemple, c'est pas la valeur d'usage qui serait absorbée par la valeur d'échange. C'est ce que Marx appelle quelquefois, pas seulement, il appelle la valeur tout court. Et la valeur tout court, c'est quoi? C'est l'humanité de l'homme dans sa production. Bon, transcrit dans les termes du sens, on pourrait dire ce que dit Marx, c'est que le capitalisme abolit le sens dans le non-sens ou l'insensé ou l'absence de sens de l'équivalence générale. Juste pour dire que ça donne la mesure de ce avec quoi il faut se colter.
Est-ce que Marx, dans l'application de ses doctrines, a provoqué Donc, quand vous dites que le capitalisme, c'est la perte de sens, et le rapport à l'équivalence, dans la démarche de Marx, il y a plus de détention, il y a de plus, c'est-à-dire tout le monde sur un niveau. Donc, tout le monde, il y a une redémultiplication du sens à plat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence de sens, différence de valeur, plus de différence d'acquisition, et c'est l'entropie.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, et là, vous avez raison d'introduire le mot de différence. C'est que, en effet, pour qu'il y ait du sens, pour garder le moulin, pour qu'il y ait donc du renvoi, il faut qu'il y ait une différence de potentiel. Voilà, pour que ça circule.
Donc, j'essaie d'aborder dans l'altérité, c'est-à-dire d'accepter que quoi qu'on comprenne, qu'on saisisse, qu'on perçoive dans l'autre, dans l'individu et dans l'autre avec un grand A, il reste quelque chose qu'il faut accepter comme étant de l'inconnu.
Oui, ça.
Donc, on ne peut pas arriver à l'absolu, pas plus dans le capitalisme que dans le marxisme. Et pour reprendre la Shoah, qu'on a perçue comme une sorte d'absolu du désastre, moi j'ai de plus en plus la sensation que quand on dit plus jamais ça, on renvoie en miroir la même chose. C'est-à-dire que c'est plus jamais ça. Qu'est-ce que c'est que ce ça? Et c'est à ça qu'il faudrait qu'on s'appelle.
Ben oui, mais ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, en disant si on se contente du geste d'anathème, on a. Oui. Mais maintenant, je ne serais pas d'accord avec se contenter de la formule, disons-nous, qu'on n'arrive jamais à l'absolu.
Oui,
il vaudrait mieux dire qu'on y est toujours déjà et qu'on y arrive tout le temps. Non, pas de, oui, mais qu'il s'agit de se laisser saisir par ça. Parce que l'absolu, s'il est vraiment absolu, il est insaisissable. Vous savez, absolu, ça veut dire détaché de tout. Donc n'espérez pas l'attraper. Il est trop délié, il est trop détaché pour être attrapé. Tout récemment, je veux dire, à cause de la demande d'un ami qui bon, nomme Abdelwahab Medeb, qui fait l'émission Culture de l'Islam et qui a écrit son livre sur la maladie de l'Islam, il m'a instamment demandé de lire un peu Ibn Khaldoun, que je n'ai jamais lu, j'avoue, pour lire un peu ce que, je sais pas, l'effet que ça me faisait. Ibn Khaldoun, c'était cet historien, penseur arabe, musulman, du 14e siècle, qui est complètement perturbé par le changement qu'il perçoit déjà comme mutation peut-être terrible à l'intérieur du monde de l'islam et du monde de la Méditerranée en général. Et il voit que les explications des philosophes, comme ils disent, très très bien, se perdent dans la remontée vers les causes et les causes des causes, et qu'il faut arrêter ça, et que d'ailleurs pour lui le message de l'islam c'est non, on ne cherche pas les causes, et que d'autre part l'expérience intérieure des soufis, etc., lui paraît aussi suspecte. Bon, d'une certaine manière, c'est un fichu conservateur, pour ne pas dire un réac par certains côtés. Ibn Khaldoun, c'est quand même un type très très fin, et j'étais extrêmement frappé de voir que c'est quelqu'un qui a le sens de la nécessité de ne pas poser les questions, en termes de connaissances, que ce soit modèle rationnel philosophique ou modèle inspiré extatique des soufis, bien qu'ils se réclament aussi de certains premiers anciens soufis, bon, mais de, comment dire, d'en appeler à un point d'arrêt, au fond, à tout désir de connaissance. Et alors, mais pas pour tomber dans la bêtise et dans la... Bon, là, je ne dis pas, je sollicite un peu une traduction, parce que bon, je ne veux pas, puis en plus, je ne lis pas l'arabe, hein, je lis en français, alors bon, Mais je trouve, il y a certaines formules de lui que j'ai trouvées extrêmement frappantes, parce que il dit l'important, c'est pas le discours qu'on va tenir sur, mais c'est la pratique de l'âme qui va avoir lieu ou non, c'est l'exercice. Bon. Et d'une certaine façon, je dirais, ça a un certain accent spinozien. Bon. Or, non, je pense ça parce que je me disais, j'étais frappé en lisant, de me dire, c'est un type qui est un peu comme nous, quoi. Il se dit, mais vous êtes tout à foutu le camp, comme il dit, les chaînes de transmission sont interrompues. Et en fait, ce dont il se rend compte, hein, c'est que c'est peut-être bien, il n'avait pas tort, c'est que c'est peut-être bien les Turcs qui vont reprendre la mise et refaire autre chose. Hein. Mais lui il est dans le désespoir de tout ce qui a été perdu entre l'Andalousie et tout le Maghreb. Bon. Alors bon, voilà, j'arrête ça là-dessus, mais c'est juste pour dire. Et à ce moment-là, je peux complètement abandonner, d'ailleurs, l'idée. Notre affaire n'est pas de donner un nouveau sens. Donc, c'est pour ça que j'accepte peut-être même plus tout à fait aussi facilement la phrase de Nietzsche. C'est pas de donner de nouveau du sens. C'est de comprendre que le sens, on est dedans, c'est-à-dire on est toujours dans ce renvoi à, mais que ce renvoi est proprement infini. C'est-à-dire qu'il n'est pas interminable, mais qu'il est ici et maintenant infini. C'est-à-dire à la fois total, s'il est absolu, mais qu'il est aussi renvoie justement à l'absolu. Et que en même temps, ça n'est peut-être pas autre chose qu'un certain se sentir vivant, oui, mais aussi se sentir, oui, alors enfin la formule de Spinoza. Nous savons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Sentimus et experimus ou experimurque nos eternos esse. Et qu'est-ce que ça veut dire, étant donné que Spinoza n'a jamais pensé à nier la mort de chacun. Et ça, je crois que c'est c'est ça l'affaire. Voilà. C'est ça l'affaire.
C'est d'être dans le vibrato, vous parliez de musique, dans une espèce de vibrato perpétuel.
Oui, mais. Mais il faudrait aussi arriver à parler autrement qu'en termes d'accepter. Même quand vous dites accepter, c'est plus de résignation. Ah bon, alors. Donc, il y a une acceptation, je veux bien, mais pas une acceptation par résignation, par défaut, par manque. Non, une réceptivité. Il s'agit d'une réceptivité, oui, d'accord.
Je voudrais revenir au malaise. Quand même, on parlait du malaise, c'est un malaise pathologique. Enfin, ça m'intéresse beaucoup, cette manière de concevoir les choses, parce que vous parliez de notre civilisation, alors. Je dirais comme ça, notre civilisation, qu'elle nous a, à mon avis, une des choses qu'elle a le mieux démontré, c'est la capacité de l'homme, non seulement des êtres humains, non seulement à s'annihiler eux-mêmes massivement, mais aussi à annihiler, récemment, de plus en plus, des tas d'autres espèces, annihiler même l'endroit où l'homme vit. Je veux revenir au nihilisme, comme absence de sens. Il n'y a pas de sens, ou alors d'une autre manière, pourquoi est-ce que c'est un peu parler de Freud avec son chien, et il dit que la comment c'est pathologique, c'est quand on se demande si ma vie a un sens. C'est ce que j'ai compris. Alors je vois un peu le nihilisme là-dedans, c'est-à-dire, mais c'est une pathologie qui est générale, pas seulement individuelle. On se demande, est-ce que la vie a un sens, et alors on dit, alors à ce moment-là, pourquoi la vie, pourquoi quelque chose plutôt que rien. Et dans ce cas-là, on dit quoi? On dit pourquoi pas rien. Et à mon avis, c'est là le nihilisme, parce que nihil en latin, ça veut dire rien. Alors, pourquoi pas rien? Et là, à mon avis, il y a une certaine pathologie dans notre civilisation. Et pourquoi pas rien? Et Et alors, on arrive à un moment où tout à coup, pourquoi pas rien, en effet, oui, on annule, on ne fait
oui,
plus rien.
Pour autant qu'on confond rien avec néant.
Oui, mais laissez-moi continuer parce que. Parce qu'on parlait beaucoup de suite, excusez-moi, hein, parce que à ce moment-là, je voulais vraiment continuer sur le nihilisme, c'est-à-dire l'annihilation. Nihilisme, annihilation. Et alors, on annihile, on réduit à néant, et à ce moment-là, on est frappé parce qu'on dit oulala, on se demandait s'il avait un certain sens, etc., Bailly au Corneille, et tout à coup, on dit oulala, ça a du sens, enfin, là ça bouge, ça vibre, autant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on dit au mince, tout à coup ça prend sens. Et là il y a peut-être un problème à ce moment-là où à chaque fois qu'on se rend compte que vraiment on est au-delà d'un certain seuil où on ne peut pas ne pas admettre que là il y a quelque chose plutôt que rien, c'est toujours le moment où il y a cette annihilation, en tout cas dans notre civilisation. Et je ne sais pas récemment, il y a plein de phrases, il y a ce génocide du Burundi, etc. Il y a de la raison, il y a une logique dans tout ça, je reprends pour dire. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas déterminée d'avance, mais le problème, c'est qu'on s'en rend compte une fois qu'il est trop tard, je dirais, presque. Ouais, et là je pose la question de cette reconduction de l'absence de sens par le fait d'accorder un sens à partir du moment où toute chance d'agir est détruite. Et donc, je pose la question, si c'est pas à ce moment-là, c'est vrai, à chacun de se demander déjà, au lieu de pourquoi pas rien, pourquoi je suis là, pourquoi pas quelque chose, il y a quelque chose à vivre.
Mais peut-être pas pourquoi aussi. Peut-être pas pourquoi.
Je dirais pourquoi pas.
Heureusement, quand même, heureusement que tous les jours, sauf quelques moments où nous sommes là et nous nous posons des questions, au moins nous disons que nous nous posons des questions, mais heureusement qu'ensuite nous allons retourner chez nous et nous allons nous coucher et que quand même nous allons pouvoir dormir, ça parce que sinon nous serions dans la pathologie. Si vous ne pouvez pas vous endormir ce soir parce que toute la nuit vous vous dites « là, là, là », bon. Non, mais là, je ne vais pas caricaturer, mais il y a une chose qui est très frappante et qui est quand même... Bon, mais là, je ne veux pas dire, maintenant, je joue un petit couplet positif, optimiste, mais quand même... Mais pourtant, les hommes vivent. C'est quand même incroyable. Ils vivent dans des conditions épouvantables, ils vivent à travers tout, ils vivent, ils font des choses, ils font des enfants, Et pourquoi ? Justement, ça, c'est ce qu'on ne peut pas demander. Et je ne dis pas qu'il suffit de dire ça, parce que si je nous transforme tous en troupeau, qui que ce soit ce que je viens de dire, voilà, on rentre, on dort, bon, voilà. Mais c'est pas vain, ça.
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner un sens pour autant.
Non, peut-être qu'il ne faut pas le donner, justement.
Ce n'est pas qu'il ne faut pas le donner, mais il y a des choses flagrantes dont on peut se rendre compte avant qu'elles prennent
Oui.
Justement, quoi. On n'est pas obligé d'attendre jusqu'à l'extrémité, parce qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a tout de même...
Ça, c'est vrai, mais...
Les humains sont capables d'avoir un impact et de laisser une empreinte de taille par rapport aux espèces sur la Terre. On peut admettre ça, par exemple.
Oui, mais on n'est pas, mais maintenant les choses sont quand même si compliquées que, justement, on n'est pas si facilement en mesure de dire « Ah non, là, on voit très très bien que c'est là qu'il faut s'arrêter. »
Non.
On est plein de questions comme ça, vous savez bien. Hein ? Le clonage étant la plus spectaculaire de toutes, mais...
Non, mais peut-être que si on peut
dire, alors ça, c'est, pas... ça veut dire aussi que nous avons ça en charge, c'est-à-dire justement l'impossibilité de nous prédonner le sens et la vérité. Je ne peux pas vous dire la poursuite des expérimentations de clonage, etc., va faire ceci et cela. Ça ne peut absolument pas, et personne ne peut vous le dire.
Alors il y a, c'est pour ça qu'il y a un grand retour comme ça de la valeur de prudence reprise d'Aristote, puis du Moyen-Âge, et de ce qu'on appelle le principe de précaution, bon, toutes ces choses-là, mais le problème est que justement nous ne sommes plus, je dirais, nous ne sommes plus dans un monde comme celui d'Aristote dans lequel une pensée pouvait se soutenir avec quelque chose comme ça, comme la prudence, dans son sens le plus fort. Donc, mais voilà.
Une absurdité peut-être complètement à l'esprit, là, je dis, quel sens aurait ma vie si j'avais une mortalité certaine à travers le chronomètre, scientifiquement, etc. Et quel sens serait ma question de mon sentiment, quelle serait la place de mon sentiment d'immortalité qui me donne tant de puissance si ça me devenait une réalité? Voyez un petit peu où serait mon sentiment.
Pas d'immortalité, d'éternité, d'éternité. J'ai prévisé en. Oui, Badiou, il aime bien dire nous sommes immortels, l'homme, c'est-à-dire l'immortel. Mais moi, je le comprends comme éternel, et la différence étant que l'immortalité, je vois que Badiou aussi il le pense comme éternel, je ne sais pas s'il a choisi le mot immortel, mais la différence, c'est que l'immortalité, je dirais, ça se passe dans le mauvais infini, pour dire comme Hegel, c'est-à-dire ça se prolonge indéfiniment. L'éternité, c'est hors du temps. L'éternité, c'est maintenant. C'est maintenant que vous êtes éternel, et pas hier ni demain.
Mais non, c'est l'instant.
Voilà. Et à ce moment-là, les deux instants de la contingence, qui sont la naissance et la mort, sont aussi les instants de ce qu'on appelle la finitude, bon, plutôt dans la tradition heideggerienne, mais je comprends que ce mot devient de moins en moins supportable aujourd'hui. Même chez les philosophes, on n'aime pas ça, on a l'impression que c'est... Peut-être, d'ailleurs, je ne sais pas quoi, on y voit comme un sentiment tragique. Bon. Alors, disons les deux instants, les deux moments du présent. Voilà, c'est une espèce de pur présent entre lesquels, justement, en effet, une vie se présente, comme tel. Ce sont justement les moments où le sens est complètement retiré, mais c'est justement à partir de là qu'il y a la possibilité de penser une présence, justement, la présence de cette vie entre sa naissance et sa mort, comme n'étant pas justement réductible à un pur être présent là, comme le verre est posé là sur la table et qu'il n'a rien à faire avec sa propre présence. Non.
Depuis tout à l'heure, je voudrais dire quelque chose, mais j'arrive pas. J'ai l'impression de partir loin, alors excusez-moi si ça ne respecte pas exactement le sujet. J'ai été malade, j'ai été greffée de la moelle osseuse et j'ai vécu un moment hors du temps sous la bulle. J'ai eu l'impression que j'étais complètement vivante alors que j'étais malade et que c'était possible que je n'en sorte pas. Et un des énoncés qui me reste difficile à comprendre et donc à faire sens avec ça, c'est ce que peuvent me dire les autres, qui est si ta sœur n'avait pas été compatible, tu serais morte. Ce que je peux comprendre complètement intellectuellement et ce que intérieurement je ne comprends pas, parce que je n'ai jamais eu l'impression d'une discontinuité de mon identité, de mon être. Au contraire, c'est-à-dire que j'ai pas cette condition, vous parlez d'inconditionnalité, vous parlez, il y a plein de mots dans ce que vous avez dit qui m'évoquent cette situation. Et je me demande si le sens, c'est pas aussi parce que on veut tous être des sujets, on s'accroche à ça. J'ai l'impression que l'humanité veut être, enfin que l'humain veut être, et que du coup, on supporte pas la banalité, quoi. On supporte pas d'être comme un arbre ou une pierre, on peut peut-être pas, mais même dans l'idée, on supporte pas. Donc, faut qu'on se donne un sens, faut qu'on se donne une histoire, et que c'est cette subjectivité qui fait que qui fait que on est aussi capable du pire comme du meilleur. Et peut-être que c'est pas compréhensible ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a une très forte contradiction entre des choses que je comprends et des choses que je comprends pas. Enfin, c'est-à-dire que je trouve que le sens échappe. Je pense que c'est ce que vous disiez, hein, qu'il n'y a pas d'accomplissement du sens. Alors, voilà, je voulais savoir.
Ben, encore une fois, voilà, il faudrait travailler pour évacuer, échappe. Il n'y a pas d'accomplissement. Mais moi-même, j'ai donné prise à ça, je sais bien. Mais voilà, il faut essayer de penser autrement que dans cette catégorie de... Que, bon, d'accord, sens, mais on va pas aboutir et tout. Non, mais ce que vous dites là, ce que vous disiez est très intéressant, d'autant plus que, confidence pour confidence, je peux vous dire, moi j'ai vécu quelque chose d'analogue à vous. Moi j'ai été greffé du cœur. Et s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui était mort suffisamment à temps pour que j'ai un cœur, je serais mort aussi. Il n'y avait plus beaucoup de mois à passer pour ça. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on touche exactement à la contingence complète. Et plus aussi à l'inscription de cette contingence dans le système d'une rationalité... Qui est la rationalité technique moderne, etc., qui rend possible ces choses et qui en rendra d'autres encore possibles, et qui pour autant, en même temps, c'est peut-être ça qui est intéressant, plus elle avance cette rationalité, moins elle va dans le sens de nous faire penser que nous allons pouvoir être, alors pour le coup, immortels. Hein. Ça, c'est ce que Descartes pouvait encore plus ou moins s'imaginer. Mais, dans ce que vous avez dit, il y avait ces deux choses. Si votre sœur, etc. Hein, et puis il y avait que vous n'avez pas éprouvé de discontinuité. Hein. Et oui, je connais bien ça parce que moi, on m'a souvent demandé si j'avais le sentiment d'avoir changé. Et ça veut dire, je trouve que c'est une manière très intéressante là, de mettre ensemble la contingence et le caractère, comment dire, ponctuel et justement insaisissable, immaîtrisable de ce que vous appelez là sujet. Et donc, je ne sais pas là pour faire vite parce qu'il est tard maintenant, donc peut-être il faudrait comprendre que le sujet, il ne s'agit pas... si on veut garder le mot, c'est un gros problème. Le sujet désigne un endroit où il y a un mot, il n'y en a pas, on ne sait pas, dans quel sens il faut le prendre, justement. Mais si on rapporte le sujet, en disant de la manière la plus classique, à la possibilité d'un retour à soi, hein, d'un renvoi à soi-même, c'est-à-dire justement à ce moment-là, le sujet est le sujet du sens, est en lui-même le sens que le renvoi se fait à soi-même. C'est à cette structure, cette configuration du sujet que s'en est pris tout le travail philosophique, je sais pas, des 40 dernières années, peut-être, pas jusqu'à maintenant, mais qui pendant longtemps s'est occupé à... pas comment dire, critiquer ou déconstruire ou mettre de côté le sujet. Si, en revanche, par sujet, on entend ce qui précisément, comment dire, n'est pas dans ce renvoi à soi, qui est le point vide, comme ça, d'un curseur qui est toujours dans l'envoi à, aussi d'ailleurs dans l'envoi par. Hein, par quoi? Mais justement, par cet ensemble de circonstances, de choses, voilà, de toute cette contingence qui font que vous êtes né, que vous mourrez, qu'entre-temps vous avez failli mourir, que telle circonstance, voilà, ça vous a permis de mourir. Alors le sujet, je dirais, c'est d'une part, c'est rien en tant que renvoi à soi, où ça ouvre tout de suite l'infinité même de ce renvoi à soi. Et c'est en même temps le curseur, pourquoi pas, c'est ce point comme curseur qui se déplace là, et qui suit des trajectoires aussi aléatoires, contingentes, qui elle procède d'une quantité de renvois aux autres sujets, justement. Je ne sais pas si je me comprends bien moi-même dans ce que je vous dis, alors ne cherchez pas trop à comprendre.
En fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a des situations comme ça, un peu paroxystiques, qui nous montrent qu'en fait, notre vie, enfin notre existence, est une sorte de série d'aléatoires, enfin de choses qu'en fait, on ne contrôle pas, de contingences.
Oui, heureusement, imaginez que vous contrôliez tout.
Oui, mais justement, moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on veut tous croire, qu'on contrôle au moins
bien sûr.
Un minimum de choses, et que c'est justement ça qui fait sens, et que justement dans ce que vous me disiez de faire attention à ce que j'avais dit, par rapport à accomplissement de sens, saisissement justement, c'est parce qu'on est toujours dans cette tendance de vouloir saisir.
Non mais d'accord, vous avez raison.
Et on s'empresse après de... Enfin, je ne sais pas comment chacun vit comme il peut, mais on peut s'empresser quand on vit un événement qui tout d'un coup nous met dans l'effroi et nous montre qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. On peut s'accrocher encore plus après. Ou alors, moi j'essaye de rester plus flottante et d'accepter ça. Enfin, ça. Tout ça. Mais c'est difficile parce que justement, et là, j'ai été sensible à ce que vous disiez sur Descartes avec l'union du corps et de l'esprit, parce que cette énoncée dont je parlais tout à l'heure, que je n'arrive pas à résoudre, enfin à comprendre, ou je ne comprends que quand j'oublie et que je vis, comme vous disiez de Descartes, que je vis au quotidien, et que du coup là, je règle la question du « mais si elle n'avait pas été, tu serais morte ». Alors là, je ne peux qu'y répondre par la sensation, quoi. Et me dire, je ne me dis rien, justement.
Et oui, alors vous pouvez aussi vous dire autre chose que moi, je me suis dit pour moi-même. Quel est le sens, au sens pas de la justification, de la raison, donc comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui rend raison du fait qu'on ait pu prolonger votre vie, qu'on ait pu prolonger la mienne?
Ça veut dire quoi, qu'est-ce qui rend raison?
Pourquoi? À quoi c'était bon de prolonger votre vie? Pourquoi le fallait-il? Ou bien à quoi ça a-t-il servi? Vous allez dire que ça a servi au fait...
Je pense que là-dedans, il y a quelque chose à chercher, le capital dans la maladie elle-même, parce qu'en tant que révélateur de la persistance de la vie, parce que c'est à travers cette...
Non, là on ne parle pas de la maladie, on parle de ce qui met la vie complètement en jeu. Et que, parce que je veux dire, la seule réponse qu'il y ait à, par exemple, parce que les greffes permettent maintenant, la seule réponse, elle est dans une espèce de bon sens évident. Il vaut mieux vivre plus longtemps que. Ah oui, pourquoi?
Mais on ne s'en rend pas compte jusqu'à ce que cet événement...
Évidemment, moi je peux vous dire maintenant depuis 15 ans, j'ai eu 15 ans de prolongement de ma vie, certainement c'est bien, je ne veux pas dire que ce n'est pas bien. C'est comme mademoiselle aussi. Mais oui, mais oui, ça fait... Mais pourquoi?
Mais c'est pour ça la question se pose avec le clonage. Si vous n'auriez pas écrit, vous avez écrit.
Ah oui, mais quelqu'un d'autre aurait écrit autre chose que ça aurait écrit autre chose. Si bien, ça c'est pas... Non, il n'y a rien à chercher du côté de ce que ça a produit. Vous voyez ?
Bon de vivre. S'il n'y avait pas les antibiotiques, moi je crois que je serais déjà 5-6.
Mais bon, on est peut-être beaucoup ici qui ne serions pas là si ceci et cela. Puis aussi, on peut dire que beaucoup ne seraient pas là, mais qui n'en savent rien du tout, parce qu'ils n'ont pas reçu sur la tête la brique qui est tombée 5 minutes après leur passage. Donc pour moi, ça m'a beaucoup frappé parce que c'est pas toujours vu que du côté de la médecine, il y a un axiome là qui est bien établi, et qui est l'axiome de la médecine, et qui est en effet d'une grande force. C'est qu'il faut, le médecin est là pour guérir et pour la vie, à toutes les conditions et dans toutes les situations, etc. Bien. Mais, évidemment, maintenant, on est dans une civilisation aussi dans laquelle la quantité énorme des moyens, pose aussi des problèmes tels qu'on ne peut pas éviter de se demander, mais on fait tout ça pourquoi ? Hein ? Non.
C'est vrai ?
Donc, mais je ne suis pas. Je...
L'immortalité qui joue là.
Hein ?
Parce qu'en arrivant à l'absolu, le problème de l'immortalité, on trouve que c'est merveilleux. C'est merveilleux, effectivement. Mais si on le pousse en tant que stratège et qu'on le pousse dans l'absolu, c'est-à-dire que chacun, par exemple, pour imaginer, a son clone. Qui va compenser dans le temps de sa vie, et on va refaire un clone du clone pour, avec une espèce de vision absurde d'une prolongation éternelle. Et pourquoi pas, parce qu'on est né dans cette pensée.
Non, pas éternel, dans l'immortel. C'est le...
Oui, dans l'immortel.
Oui, ben oui, ben oui, mais peut-être qu'on est devant des questions comme ça.
Peut-être.
À ce moment-là, cette garantie d'immortalité, c'est dans cette situation-là, d'une immortalité, d'une garantie comme ça, de sécurité, vous parlez de la médecine qui atteint des paroxysmes, c'est à ce moment-là, j'ai l'impression que la vie est d'élan vital, quoi. Disons, au moment, elle a moins de choses qui vont à son encontre, parce qu'elle a le moins à dépasser ce qui la met en jeu, et à s'affirmer en tant que telle.
Mais au moins, on peut dire ceci, que ce qui se passe, en effet, avec la médecine, avec la biologie, etc., au moins, ça nous fait nous poser toutes ces questions. Ah, et ça, c'est...
On est dans la pathologie.
Ah. Non, mais bon, d'accord. La remarque de Freud, évidemment, c'est le caractère d'une boutade. Il faut la mettre en rapport avec le chien, avec le fait que Freud ne peut pas non plus nous donner là le chien comme modèle de. Vous voyez. Donc. Bon, enfin, peut-être que je m'arrête là, parce que sinon, ça va être... Non, je ne veux pas te trop couper court, mais je pense que... Oui. C'est un peu, hein.